Je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Rejoignez vos places. Bien. Ça fonctionne ou pas ? Oui, oui. Donc, j'ouvre la séance. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre directeur général des services, Damien Parmentier. Pas d'opposition. Je vous propose ensuite d'arrêter la séance du conseil municipal des 7 et 8 du métropolitain, pardon, des 7 et 8 avril dernier. Je n'ai pas eu de demande de rectification, d'ajout ou de modification. Donc, personne ne s'oppose à son adoption. Il est adopté à l'unanimité. Et donc, nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est la désignation de représentants de Rome Métropole dans divers organismes. Donc, je vous propose d'abord de déroger au vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a une opposition à ce que nous dérogions ? S'il n'y en a pas, nous voterons donc à main levée. Alors, on procède, vous propose de désigner à l'agence France Locale Thierry Horry en titulaire et Jérôme Guerre en suppléant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Oui, oui, il y a ces 4 abstentions. Attendez, combien d'abstentions ? Attendez, alors. Oui, voilà. 5. Non. Alors, je vous propose de désigner à la SCIC d'HLM Aiguillon-Metz, donc au CA, Éric Lucas. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. 5. Très bien. Alors, les autres votent pour. Alors, ensuite, à l'Association nationale des élus en charge du sport, Nathalie Sportmeyer. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. OK. Ensuite, à l'ASPL Chamblay et Madine, Corinne Friot. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Très bien, même vote. Au club Metz-Eurométropole, Jacqueline Schneider, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, au commissariat aux investissements pour l'innovation et la mobilisation économique, en titulaire Marc Siamana, en suppléant Jacqueline Schneider, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À la commission départementale de préservation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en titulaire Philippe Glaser et en suppléant Jean-Baptiste Barthélémy. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Pour l'association Conférence nationale permanente du tourisme urbain, titulaire Jean-Luc Ball.
Ça s'appelle France Tourisme Urbain.
C'est France Tourisme Urbain, il faudra rectifier. Donc titulaire Jean-Luc Ball, suppléant Corinne Friot. Vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. À la conférence régionale des financeurs du sport, propose en titulaire Nathalie Sportmeyer et en suppléant Paola Zanetti. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. À la conférence régionale du sport du Grand Est, je vous propose les mêmes. Nathalie Sportmeyer en titulaire, Paola Zanetti en suppléant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. À Energy City, propose en titulaire Anne Frisch-Renard et en suppléant Rachel Burgi. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. À l'association Envirobat Grand Est Arcade LQE, je vous propose les mêmes. Anne Frisch-Renard en titulaire et Rachel Burgi en suppléant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote. À France Urbaine, je vous propose moi-même, Jean-Luc Ball, Anne Frisch-Renard, Béatrice Agamemnon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'Agence régionale des transformations Grand Est Développement, titulaire Cédric Gout, suppléant Jacqueline Schneider. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À Initiative Metz, un titulaire Cédric Gout. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au comité syndical de Moselle Fibre, Claire Ancel en titulaire, Damien Thiel en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la SPL en THD, en titulaire Antoine Postera et en suppléant Claire Ancel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat mixte du parc naturel régional de Lorraine, Anne Frisch-Renard. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À TCRM Blida, je vous propose Dimitri Sokolovski, René Leborgne et Sylvie Roux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À World Trade Center franco-allemand Messarbrücken, Ando Sanweissman. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'épage des eaux vives des Troigniers, propose Eric Alkeide et en titulaire et Stéphane Litz en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat mixte des ruisseaux du Haut-Chemin, propose en titulaire Jean-Louis Ballarini, Vincent Dieudonnier et Maria Marc. Et en suppléant, René Kenfelder, Judicaël Naudet et Marie-Luce Colata-Mercier. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulle et Faulquemont, propose en titulaire, il n'y a que des, Eric Alcaïdé, Stéphane Litz, Martine Saltman et Sandrine Bousselier. Il y a des suppléants là ou pas, non? Non, il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne, je vous propose en titulaire Frédéric Laugin, David Bailly, Hassan Secour, Valentin Muller, Pierre Fachot, Frédéric Lefebvre, Yves Clarisse, Georges Rémy, Philippe Glaser, Jean-Paul Schmitt, Marc Piastrelli, Thibaut Zanetti, Christophe Karl, Jean-Pierre Joyeux, Nathalie Sportmeyer, Dominique Sutter, Christian Favre, Fabrice Leclerc, Xavier Bigel, Mélène Thiel, Antoine Postera, Joël Gavina. Et il n'y a pas de suppléant. Bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat intercommunal des Eaux de Verny, proposant en titulaire donc Martine Michel, Jean-Marc Gauthéron, Alexandre Magère, Dominique Château, François Carpentier, Olivier Raymond, Philippe Foulon, Aurélien Gillon, Noël Reiter, Philippe Bugueau, Sophie Rémy, Régis Zardet, Céline Marx, Denis Ferry. Et en suppléant, Thierry Winger des UR, Julien Sido, Marilyn Arnois, Vincent Pinter, Marie-Lou Vanger, Gérald Bellot, Ludovic Crépin, Pascal Hubert, Madeleine Stémar, Thierry Bertrand, Lucien Druliol, Alain Goubet, François Noiret et Diego Petralito. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat mixte intercommunal des eaux de la Vallée de l'Orne, donc en aval, on propose en, donc Maxime Rich et Philippe Zappala. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat mixte d'études d'aménagement et d'entretien du ruisseau du Billiron, Antoine Postera. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au syndicat mixte de la SAIE, Lionel Christophe, Joël Strodina, Martine Michel, François Carpentier, Olivier Raymond, René Leborgne, et en suppléant, Régis Zardet, Adélaïde Créti, Denis Ferry, Thierry Horry, Gérald Bellot et Gérard Van Der Pot. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. à l'association ALOS, l'association de logement des élèves de Supélec, en titulaire Frédéric Navreau, en suppléant Julien Husson. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À l'ENIM, donc on propose Béatrice Agamemnon. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À l'ENSAM, propose Marc Siamana. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À l'ESITC, toujours Marc Siamana. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À Georgia Tech, on vous propose Shadi Elnar. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À l'association RESAM, c'est la résidence des arts et métiers au Technopôle, donc nous proposons Frédéric Navreau, Marc Siamana et Jacqueline Schneider. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À la fondation Supélec, chère Photonique, proposons Shadi Elnar. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À l'IAE Metz School of Management, nous vous proposons en titulaire Shadi Elnar et en suppléant Doan Tran. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. À la Fondation universitaire ID plus Lorraine, Marc Siamana. Qui vote contre, qui s'abstient. Personne ne s'abstient. Ah, quand même. Même vote. Voilà. À l'IUT de Metz, Anne-Frisch Renard. Qui vote contre, qui s'abstient. Même vote. Alice Vattès, titulaire Marc Siamana, suppléant Geoffrey Schutz. Qui vote contre, qui s'abstient. Même vote. À l'UFR de sciences humaines et sociales, titulaire Jérémy Alloy, suppléant Attila Sapsi, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Non, il y a une de plus maintenant d'abstention à partir de ce point, ouais, ou du précédent. Ouais. Donc, ensuite, on là, c'est voté, là. Oui. À l'UFR, droit, économie, administration, titulaire Jacqueline Schneider, suppléant Frisch Renard, qui vote contre, qui s'abstient, même vote.
Non, elle est très longue, on n'avait pas fait.
Ah oui, c'est la 502.
Si, elle est très longue, vous avez fait.
Non, vous avez fait SHS.
Ah bon. C'était le même vote, mais si, c'est contre le...
Sciences humaines et sociales.
C'est le premier vote qu'a fait Madame Leduc.
C'était...
Ben si, c'est le premier... Non, l'aide, c'est le premier vote qu'a fait... De quoi? Lettres et sciences sociales. Ah oui, oui, sciences humaines et sociales. Ouais. Celui-là n'a pas été fait. C'est lettres et langues qui a été fait. Donc voilà. Celui-là n'a pas été fait. Alors, art, lettres et langues, titulaire Philippe Brunella, suppléant Jérémy Alloy. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Ok, donc ça a été fait. Ça a été fait. Non, non. Non, non. Sciences fondamentales et appliquées. Titulaire Anne-Frisch Renard, suppléant Dossan Weissmann. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote, donc du coup à 6. L'UFR de langue pour spécialistes d'autres disciplines, donc titulaire Doan Tran, suppléant Fatia Ada. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, désignation à l'UFR de mathématiques, informatiques et mécaniques, donc titulaire Frédéric Logien, suppléant Frisch Renard. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, au collégium droit, économie, gestion, titulaire Jacqueline Schneider, suppléant Frisch Renard. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, au collégium sciences et technologies, titulaire Andossan Weissmann, suppléant Isabelle Lux. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Ensuite, à l'association de préfiguration de l'Institut Lafayette, Shadi Elnar. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au PIL, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, donc Marc Siamana. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Et c'est fini. Bon. Alors, Oui, j'ai oublié. Alors maintenant, elles ont été complétées. Les absences excusées, effectivement. Donc je rappelle, effectivement, je ne l'ai pas fait en début de séance, que se sont excusées, alors, Véronique Rémer qui donne pouvoir à Tanguy Servet, Nathalie Colin-Sterlet qui me donne pouvoir, Jean-Baptiste Barthélémy qui m'a donné pouvoir, Jérémy Roch qui l'a donné à Jean-François Secondet, Rachel Burgi à Guillaume Godet, Julien Husson à Ferid Buran, Isabelle Lux à Henri Malassé, Walter Kursman à Pascal Hubert, Béatrice Agamemnon à Catherine Gervais, Geoffrey Schutz à Jean-Luc Ballarini, Attila Sapsi à Mamar Méali, Éric Lucas à Doane Tran, Timothée Bord à Jérémy Allois, s'est excusé également Gertrude Gokaljop, Cédric Goud devra nous quitter à 20h et donnera pouvoir à Abdelmajid Maouche, Jacqueline Schneider a donné pouvoir à Marc Siamana, Anne Frisch-Renard à Corinne Friot et Olivier Münzner à Nathalie S. Voilà. Ensuite, le point numéro 2, voilà, c'est le budget. Et donc, je donne la parole à Monsieur Thierry Horry.
Bon, je m'assurais que notre... Pardon. Ça fonctionne ? Je ne sais pas. Bon, alors moi, je ne m'entends pas, mais si vous m'entendez, c'est bien. Mesdames, Messieurs, donc je vais vous présenter les budgets de la métropole. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous dire qu'il est particulièrement difficile de faire évoluer un discours entre un DOB qui s'est fait il y a quelques jours et puis un budget qui se rapproche finalement de ce DOB, mais donc il n'y aura pas beaucoup de surprises en tout cas, mais c'est important de vous le dire par ailleurs. Je voudrais bien évidemment encore remercier les services de la métropole qui ont œuvré d'arrache-pied pour concocter l'ensemble de ces budgets. Donc avant de les voir, nous allons rappeler le cadre général dans lequel s'inscrit l'adoption de nos budgets. On verra les grands équilibres du budget principal. Je parlerai également du budget annexe par ailleurs transport qui continue de progresser avec l'avancement des travaux de la troisième ligne métisse. Mais je ferai abstraction et je n'interviendrai pas, mais vous avez eu les budgets en ce qui concerne l'archéologie préventive, déchetterie et zone en régie, puisque on va à l'essentiel au budget principal, en tout cas dans la présentation, et en ce qui concerne le budget annexe transport. Je tiens cependant à préciser, mais je le dirai peut-être plusieurs fois et très probablement le président, que pour l'ensemble de ces budgets, il est évident que nous les construisons avec la reprise anticipée du budget primitif principal et puis donc du budget donc et des budgets annexes, bien évidemment. J'ai une annonce particulièrement importante, notamment avant que vous partiez, quel que soit d'ailleurs l'horaire où vous partez, cher Cédric, c'est que les agents métropolitains sont présents aux sorties du bâtiment pour vous faire signer la feuille d'émargement relative au BP 2026. Donc merci, vous aurez le droit de sortir, mais quand vous aurez signé, sinon vous ne sortez pas. Voilà. Ceci étant, permettez-moi de vous parler du cadre général du budget primitif 2026. Et depuis il y a quelques jours, ça n'a pas particulièrement évolué. Notre budget s'inscrit dans un environnement toujours marqué par des incertitudes, comme la persistance des tensions internationales et une loi de finances, par contre, là, que l'on commence à connaître et qui est particulièrement contraignante pour les collectivités et plus encore pour les EPCI tels que le nôtre. Je rappelle, sans faire l'addition, mais je vous donne le montant global, toutes les mesures qui sont dans la loi de finances pour 2026 ont un impact négatif en ce qui nous concerne sur les recettes qui sont estimées à près de 10 millions d'euros sur le budget métropolitain. Alors, toute section confondu. mais c'est quand même 10 millions d'euros qui nous impactent. Et en plus, si on regarde en cumulé, sur le fonctionnement depuis 2024, c'est même pas 10 millions d'euros, nous en sommes à 14 millions. Donc voilà ce que je peux vous dire ceci. Et puis bien sûr, pour autant, vous, comme vous le savez, dans ce contexte, l'Eurométropole de Metz entend maintenir ses ambitions et poursuivre la mise en œuvre de ses politiques publiques et de son plan pluriannuel d'investissement, tout en maintenant ses taux de fiscalité en 2026. C'est peut-être ça qu'il faut retenir d'abord et en premier, mais pas seulement, c'est que les taux d'imposition restent les mêmes en 2026 pour la métropole. Voilà, donc il faut quand même aussi savoir que dans l'élaboration du budget, tout cela se traduit mécaniquement avec deux impacts, mais que vous avez pu entendre lors du ROB, du rapport d'orientation budgétaire, une épargne brute qui baisse et un recours à un emprunt d'équilibre qui est un peu plus important. Alors, bien sûr, c'est pour l'investissement, mais c'est quand même un emprunt que nous faisons par ailleurs. Et donc, sans reprendre exactement ce que nous disait la Chambre régionale des comptes, qui disait effectivement nous avions une situation financière saine à la fin de l'année 2024, mais si on regarde en projection avec les pertes de recettes résultant de la contribution de notre collectivité à l'effort national, et puis les projections de dépenses liées à la mise en œuvre tout simplement de notre plan pluriannuel d'investissement, qui est quand même de près de 400 millions d'euros, eh bien forcément, on est un petit peu dans une sorte de d'effet ciseau qui vient vers nous. Ça, c'était pour le cadre général. Permettez-moi de vous parler du budget principal. Donc, en ce qui concerne le budget principal, vous avez sur le diaporama les équilibres financiers prévisionnels qui se retrouvent. Donc, vous voyez que notre budget s'élève à environ 405 millions d'euros. Il est quand même en hausse de un peu plus de 19% par rapport au budget 2025. Il faut savoir que les recettes réelles de fonctionnement sont, elles, à hauteur de 204 millions et les dépenses réelles sont à hauteur de 190 millions. Donc ça dégage donc forcément, si vous faites la soustraction, une épargne brute de 14 millions d'euros, qui est quand même en baisse de 5 millions par rapport à 2025. Alors c'est l'effet ciseau dont je parlais tout à l'heure, et donc avec l'ensemble des décisions gouvernementales, le DILICO qui se maintient pour les EPCI, c'est pas le cas pour les collectivités locales, la progression de la masse salariale, on y est tous confrontés dans nos collectivités par ailleurs, et puis également des recettes, alors pour le coup, qui au niveau de notre collectivité diminue, notamment avec la suppression de, certaines compensations, notamment de la DC-RTP. Alors, la progression globale du budget est ainsi surtout portée par les dépenses réelles d'investissement, mais c'est quelque part, j'allais dire, le plus intéressant. C'est l'investissement qui augmente, encore une fois, avec il atteint 139 millions d'euros pour 2026. C'est une hausse de 33 millions d'euros après une hausse qui avait été faite entre 2024-2025 de 20 millions d'euros. Donc vous voyez bien que le plan pluriannuel d'investissement est en train de, j'allais dire, de déployer ses ailes par ailleurs. Et donc forcément, ces dépenses permettent l'aboutissement ou vont permettre notamment l'aboutissement de plusieurs projets majeurs du mandat précédent, mais qui vont arriver à terme, par exemple, cette année. Mais j'y reviendrai par ailleurs. Bien sûr, tout ceci, c'est la montée en puissance du plan pluriannuel d'investissement. Il va être financé alors par plusieurs éléments. Donc je vous ai parlé de l'emprunt d'équilibre qui sera d'un peu plus de 71 millions d'euros, par nos ressources propres d'investissement, mais également par la reprise du résultat 2025, plus 3 millions d'euros, ainsi que par l'autofinancement dégagé en fonctionnement. Une reprise de résultat qui apparaît apparaîtra pour tous les budgets. Donc je vous propose maintenant, après avoir vu l'équilibre du budget primitif, d'aller plutôt à l'intérieur de ce qui se passe dans le budget principal au niveau des recettes réelles de fonctionnement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas donner le chiffre, nos recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de 204 000 euros. Alors 204 000 euros, quand on a 405 millions d'euros, effectivement, on peut estimer que c'est juste le trait du crayon, mais c'est quand même une dynamique qui n'existe plus par rapport au mandat précédent. Par ailleurs, en matière de fiscalité, comme vous le savez, les taux d'imposition sont maintenus, et donc l'ensemble des produits fiscaux qui sont attendus, ils sont attendus à hauteur de 146 millions d'euros. C'est une très légère hausse en valeur absolue par rapport à 2025, c'est même pas 1% de plus. Juste pour donner cette idée. La loi de finances 2026, comme je me suis appesanti à le dire la précédente séance, mais également aujourd'hui, et elle pèse en revanche fortement sur les recettes de l'Eurométropole, comme je vous l'ai donné. Alors, je disais l'écrêtement de la DCRTP, c'est la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, pour ceux qui ne connaissaient pas cet acronyme. Donc, l'ensemble de ces dépenses, de ces recettes sont forcément baissées compte tenu de ces éléments. En ce qui concerne les dépenses, toujours on est en fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 190 millions d'euros. Elles sont en hausse, mais seulement de 2,8% par rapport à 2025, c'est-à-dire plus de 5 millions d'euros. C'est une hausse, certes, mais c'est du fonctionnement, et donc seulement plus 2,8% avec les contraintes que je viens de vous donner, notamment quand je vous ai parlé de ce que vous connaissez, toutes et tous, les maires, les adjoints aux maires, les progressions de la masse salariale imposées quelque part par l'État, on est, particulièrement pertinent dans notre façon de faire. Le chiffre global, par contre, masque une réalité qui peut être, si on regarde quelques éléments, particulièrement difficile. Je prends l'exemple, on dit que les dépenses réelles de fonctionnement, ce n'est que 2,80%, seulement plus 5 millions d'euros de plus. Mais dedans, si on regarde si on fait un focus sur certains éléments, le fameux Dilico, c'est 1,2 million d'euros que nous devons payer et qui, forcément, Aubert, notre budget. La masse salariale, l'impact de la hausse de cotisation qui est demandée par l'État sur 3 années, donc c'est presque 900 000 euros, 875 000 euros. Les charges financières, alors pour le coup, augmentent quelque peu, mais ça c'est normal parce que nous avions fait un emprunt en 2025 à hauteur de 45 millions d'euros et c'était là pour le coup pour de l'investissement. Eh bien donc justement, comme j'ai parlé de l'investissement, je vous propose de vous en parler également. En ce qui concerne les dépenses, celles qui sont inscrites, elles s'élèvent à 139 millions d'euros. Alors je parle bien de nouvelles dépenses, donc c'est déduction faite des restes à réaliser. Parce que forcément, ça serait plus. Donc ça fait quand même une hausse de dépenses d'investissement, donc au profit du territoire, presque 17%, soit 33 millions d'euros par rapport au budget primitif 2025. Alors cette hausse est principalement concentrée sur les dépenses d'équipement, qui passent de 98 millions d'euros en 2025 à 115 millions d'euros, soit plus 17%, donc d'où la traduction de notre PPI qui est en train de se mettre en place. Du côté des recettes d'investissement, il faut savoir quand même que nous sommes impactés aussi, de manière différente que le fonctionnement, notamment avec le report de la perception du FCTVA en N+1, parce que ça fait un manque à gagner en année N de 4 millions d'euros. Alors certes, on l'aura l'année prochaine, mais enfin, on aurait pu l'avoir cette année, et effectivement, c'est pas évident donc de bâtir ce budget. Ce budget, bien sûr, donc notamment, on est maintenant dans la partie investissement, je vous le rappelle, sera à l'équilibre par la souscription d'un emprunt de d'un peu plus de 71 millions d'euros, 71,2 millions d'euros. Et puis, il est à noter que le résultat de l'exercice, celui qu'on va reprendre au stade du budget primitif, donc intégrera l'affectation de résultats et donc les restes à réaliser seront également affectés en dépenses et en recettes. Ce que je vous propose, puisque nous avons vu le contexte général, les grandes masses et après le fonctionnement et l'investissement, c'est de voir, politique par politique d'action, quelques éléments emblématiques de ce que nous allons faire en 2026. Alors, en ce qui concerne la transition écologique, donc nous allons notamment continuer à investir dans le Mont-Saint-Quentin, notamment pour l'acquisition de la maison forestière à hauteur de 724 000 euros à Plaville. Également créer un espace pédagogique de sensibilisation à l'écologie ainsi qu'à la poursuite de divers travaux et études déjà engagés. On poursuivra le partenariat noué avec l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays messin. C'est l'ALEC qui permet d'accompagner, vous le savez, les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur logement. Ça sera les travaux d'adaptation qui seront subventionnés, donc ça sera renouvelé à hauteur de 590 000 euros. En parallèle, nous poursuivons également un programme destiné à aider les ménages en situation de précarité énergétique pour les aider. Et puis, il y a également le fonds Airbois qui est également maintenu. Et si on additionne ces deux derniers dispositifs, c'est déjà 380 000 euros qui vont intervenir dans ce domaine-là. En matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, c'est 1,9 million d'euros qui seront consacrés. Et on pense notamment, mais pas seulement, au renouvellement de collecteurs à Moulins-les-Mèches, Cher-Jean, et à Saint-Julien-les-Metz et à Vaux, par ailleurs. Et enfin, en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est 1,8 million d'euros qui vont concerner la renaturation du ruisseau de Vallière, avec la reprise d'ouvrages d'art Souvoirie à Mailly et la renaturation de cours d'eau à Saulny, Voipy, Metz-Nord, ainsi que la création de zones humides à Lessy et Nouilly. Donc vous voyez, notre territoire est particulièrement bien servi et pas seulement la ville-centre, évidemment. La transition écologique, c'est aussi construction de la passerelle Vadrino qui a déjà débuté elle est en phase travaux, une mise en service prévue l'année prochaine, mais on est déjà à plus de 7 millions de prévus cette année. On a le projet d'extension et d'aménagement du centre technique métropolitain qui va lui pour le coup être en phase de finalisation avec presque 2,4 millions. Ce montant comprend le remplacement de la toiture du bâtiment principal et les aménagements extérieurs. On a également dans ce qui concerne la flotte de véhicules de collecte, fait l'acquisition de véhicules qui sont soit électriques, soit hydrogène, etc. En tout cas, on va vers une commande progressive de bennes électriques ou hydrogène. Il y aura donc pour cette année une benne à ordures électrique ainsi que deux hydrogènes qui ont été reçus fin 2025. Et en 2026, on a deux bennes électriques qui vont venir et quatre bennes électriques qui commandées en 2025 qui vont être livrées plutôt à l'automne. Mais ça fait près de 5 millions d'euros dans le verdissement de la flotte pour la collecte de déchets. Et bien sûr, nous finaliserons la conteneurisation du centre-ville de Metz avec la création de locaux à déchets dans des cellules louées ou acquises afin de pallier, comme vous le savez, aux difficultés de mettre des paves au centre-ville. C'est pas toujours évident. Et donc, c'est un peu plus de 2 millions d'euros qui sont dédiés à cette opération. En ce qui concerne le développement économique et l'attractivité, vous avez le lancement opérationnel de l'opération de revitalisation du territoire. C'est un dispositif qui vise à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Il mobilisera 2,750 000 euros pour permettre l'acquisition de biens immobiliers, 3, et le démarrage des travaux d'aménagement. Il y a un peu plus de 2,320 000 euros qui seront consacrés à la poursuite de l'aménagement des halles Solac à Voipy, avec notamment la requalification densification de l'avenue de Thionville. Donc le portage est assuré par la SAREM. S'agissant du volet agricole, la métropole accueillera en septembre 2026 et soutiendra à hauteur de 90 000 euros la manifestation Terre de Gym qui est à Metz, quartier de Manille, juste à côté de Marly. C'est un bel endroit, tout ça. Voilà. Le projet de création d'une cuisine centrale se concrétisera avec le lancement d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment dédié sur le site de Frescati. Là, c'est à hauteur de 120 000 euros. Et puis, des moyens seront alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche qui sont maintenus avec un plan de rénovation énergétique des bâtiments mobilisés à un peu plus d'un million huit et puis qui recouvre tous les projets structurants tels que la rénovation de l'ENSAM, l'Institut de photonique porté par Centrale Supélec ou encore la rénovation du bâtiment de sciences humaines et sociales au Solcy. J'en viens au développement économique et à l'attractivité. Donc, s'agissant de l'Opéra Théâtre, on a une hausse des dépenses qui est constatée. C'est en lien avec les travaux de requalification du bâtiment du théâtre, de l'Opéra Théâtre, qui mobilisera en 2026 un peu plus de 8,5 millions sur un total de 35 millions d'euros qui sont prévus. Le chantier entre dans une nouvelle phase avec la construction des extensions côté quai de la Moselle, ainsi que la réalisation des aménagements scénographiques. Une exposition d'envergure se tiendra en 2026 au musée de la Cour d'Or. Elle sera consacrée à la joaillerie Weber. Le coût de cette manifestation est à un peu moins de 200 000 euros, dont 30 000 euros de frais d'assurance des biens exposés, mais c'est aussi une belle exposition. Les travaux de bâtiment prévus en 2026 au niveau du musée sont de un peu plus d'un million cent. Ils concernent l'aménagement de l'aile des Trinitaires, la cour du tailleur de pierre qui bénéficie d'un projet d'aménagement visant à y créer un espace de représentation extérieur destiné à l'accueil d'événements culturels ainsi que de rénovations diverses dans l'ancien bâtiment du concierge. Et enfin, nous aurons également dans le domaine de l'attractivité la deuxième édition de l'Euromarathon de Metz qui se tiendra le 11 octobre 2026. On peut déjà toutes et tous s'entraîner pour pouvoir y participer. La cohésion sociale, parce que je vous ai prévenu assez tôt, en fait, hein. La cohésion sociale et territoriale, ça concerne d'abord la piscine métropolitaine qui ouvrira ses portes à l'automne sur le site, donc j'en ai parlé tout à l'heure, des anciennes halles Solac à Voipy. Donc ça vient effectivement combler le manque d'infrastructures aquatiques sur le territoire. En investissement, c'est quand même 11 550 000 euros inscrits au budget primitif pour l'achèvement des travaux sur un budget total de presque 30 millions, 29,5. En matière de voirie d'aménagement de l'espace public, les projets inscrits au PPI 2022-2026 s'achèveront ou entreront en phase de finalisation. Et on a des travaux définis dans le cadre de la CLECT, 1 million d'euros qui sont consacrés à la finalisation de l'opération de redynamisation du quartier Outre-Seil et de la place Coislin. Mais sont prévus également l'aménagement d'un stationnement sécurisé de cheminement visant à valoriser l'aqueduc gallo-romain d'Ars-sur-Moselle pour 400 000 euros et le remplacement de la passerelle d'accès au fort de Queuleu pour 350 000 euros. En ce qui concerne toujours la cohésion sociale et territoriale concernant l'habitat et le logement, la délégation des aides à la pierre mobilise plus de 11 millions d'euros, 7 millions pour la rénovation du parc privé et un peu plus de 4 millions d'euros pour le parc public. En parallèle, la métropole maintient son soutien bien sûr aux bailleurs dans le cadre de son règlement particulier d'intervention, presque 2,9 millions d'euros et puis donc d'autres systèmes parallèles. Ailleurs, le prix réseau privé métropolitain, ça c'est important et ça vous intéresse toutes et tous, d'ailleurs comme l'habitat et le logement, mais là c'est, vous allez comprendre, c'est la colonne vertébrale du centre de supervision urbain qui permettra de raccorder l'ensemble des dispositifs de vidéoprotection au CSU. Il continuera son déploiement avec la fin du maillage des 25 premières communes pour un montant de près de 715 000 euros. L'Eurométropole poursuivra bien sûr le déploiement des dispositifs de vidéoprotection dans les communes pour 200 000 euros, ainsi que le cofinancement de la SNCF pour le déploiement de caméras dans les gares et haltes ferroviaires. Enfin, afin d'améliorer l'efficience du service de la police métropolitaine et les conditions de travail des agents, un concours d'architectes a été lancé afin de finaliser le projet de création d'un siège au sein du carré d'escadron sur le plateau de Frescati à hauteur de 80 000 euros en amont des travaux de déconstruction des anciens hangars métalliques seront réalisés. En ce qui concerne les ressources et la stratégie en matière de planification, mais vous le savez, l'année 2026 sera marquée par le lancement d'une nouvelle procédure d'élaboration du PLUI. Dans le cadre de la métropole, ça se fera forcément à nouveau accompagné par l'AGURAM, qui pourra également intervenir ponctuellement pour réaliser des études complémentaires sur les projets urbains ou les procédures d'évolution des PLU des communes de Mandresse. S'agissant du système d'information, le budget 2026 permettra notamment de poursuivre la deuxième phase de modernisation du système d'information des déchets, la mise en place d'un nouveau logiciel d'instruction des droits des sols qui sera généralisé à l'ensemble des communes du territoire. Et enfin, avec la ville de Metz, un outil de suivi de la maintenance et de l'éclairage public sera déployé afin de garantir un service efficace tout en optimisant les interventions. Et un système d'information modernisé à destination de la police métropolitaine sera mis en place. Voilà pour le budget principal. Et vous comprenez que maintenant, je vais aborder le budget annexe transport. Je redis que pour les autres budgets, vous les avez reçus et c'est peut-être moins important de voir par ailleurs. Et donc, sur le budget annexe transport, vous voyez grandes masses par ailleurs avec des recettes réelles de fonctionnement qui s'établissent. Il faut cliquer, Tiffaine. Voilà, merci. Parce que je suis. Et donc, c'est 78 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement avec des dépenses de fonctionnement de 75 millions d'euros. Donc, vous voyez que ça fait une épargne brute de 3 millions d'euros, un résultat de moins 1 qui est positif, avec des recettes réelles d'investissement sont, elles, de 13 millions d'euros, avec des dépenses réelles d'investissement de 56 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 56 millions d'euros? Eh bien, il y a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le verdissement de la flotte de véhicules. Mais là, je vous avais parlé pour la collecte des déchets. Là, pour le coup, ça sera pour les transports en commun, donc un peu plus de 21 millions d'euros. Mais il y a également 20 millions d'euros qui seront créés pour la troisième ligne métissée qui va de la belle ville de Marly à la belle ville de Metz en passant par la belle ville de Montigny-lès-Metz. Voilà. Et donc, ce budget annexe transport, en parallèle, il faut quand même donner quelques éléments supplémentaires. C'est commande, bien sûr, de nouveaux véhicules dans le cadre du verdissement de la flotte nécessite d'adapter les dépôts bus. Et donc, notamment celui qui est situé rue des Intendants Jobat sera aménagé pour accueillir les appareils de recharge des véhicules électriques et la maintenance lourde des véhicules à hydrogène et électrique. Alors donc, évidemment, je l'ai dit et je le redis, parce que vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas dit. Donc, je vous ai présenté le budget principal et le budget annexe transport de l'Eurométropole. Je vous laisse relire, mais c'est moins sexy, les autres, les budgets déchetterie, archéologie et zone en régie. Mais bien évidemment, ils se sont concernés par cette délibération et par les quatre motions que je vais vous indiquer et qui seront passées aux voix par le président après le débat. Il s'agit bien sûr de la motion 1, qui est le budget primitif 2026, qui traite du budget principal, du budget annexe archéologie préventive, du budget annexe déchetterie, du budget annexe transport public et du budget annexe zone en régie. Et donc avec, pour l'ensemble de ces budgets, une décision qui est de reprise anticipée des budgets principaux et des budgets annexes. La motion 2, qui est consacrée aux autorisations de programme et crédits de paiement, aux autorisations d'engagement et crédits crédits de paiement et aux inscriptions d'échéanciers. Je ne vous lis pas l'ensemble de ces éléments, mais ça, vous savez lire, mais ça vous permet effectivement de vous rappeler qu'il y a une motion 2, notamment sur des créations de nouvelles autorisations, de prolongation de certaines. La fixation du taux de la TOM, et comme vous le savez, comme je l'ai dit en préambule, déjà lors du ROB, là maintenant, lors de cette séance, le taux de la taxe sera 9,25 et sera inchangé, si vous le voulez bien sûr, il faudra le voter. La fixation des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2026 qui ne change pas et qui vous seront soumis. Confirmer le coefficient multiplicateur de la TASCOM pour l'année 2026 à 1,15, qui est le même que celui de l'année précédente. La fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2026, qui est le même, c'est-à-dire 1,151 000 euros, donc ce qui revient à avoir un gel de la fiscalité au niveau de la GEMAPI. Voilà les quatre motions, Monsieur le Président, chers collègues, et donc je vous laisse débattre par ailleurs.
Merci, Monsieur Horry. Donc, qui souhaite prendre la parole? Le Duc, Monsieur Secondet, Madame Bernardi. Alors, je vois moins bien derrière LFI Masse que le Parti Socialiste, donc je suis désolé, mais c'est qu'un effet d'optique. Hein. Bon, alors, Roberts, sur IFO, c'est ça? Vous ne voyez pas derrière M. Secondet, donc voilà, M. Anstett. Attendez, alors, M. Grégoire. Attendez, Siemana. Le beau. Bon, pas d'autres demandes. Si elle se manifeste en cours de débat, vous pourrez toujours. Madame le Duc.
Je règle. Ça marche, non? Oui,
oui, vous normalement, oui.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avant tout, je souhaite remercier les personnes et les services qui ont produit les documents qui sont mis à notre disposition pour permettre le débat aujourd'hui sur le budget primitif pour 2026. Nous voilà dans les aspects concrets des choix budgétaires que vous proposez pour cette année. Et comme je le disais lors du débat d'orientation budgétaire, ce budget témoigne d'une précipitation à achever le plan pluriannuel d'investissement débuté en 2022 et qui doit se terminer cette année. Un PPI vraisemblablement mal planifié tant il reste à faire, occasionnant une forte augmentation du budget par rapport aux autres années et conduisant à la situation dans laquelle nous sommes. Un budget primitif qui s'élève à 405 millions d'euros, 220 millions en fonctionnement et 185 millions en investissement, représentant une hausse de 19% au total par rapport au budget primitif de 2025 et avec une baisse assez nette de l'épargne brute et un plus fort endettement en hausse de 36% par rapport à l'année dernière. Mais au bout du compte, le problème n'est pas en soi l'augmentation du budget ni même l'augmentation de la dette, car nous le disons, nous sommes de celles et ceux qui pensent que la dette a un sens dans un contexte budgétaire si tendu, si elle est au service d'investissements judicieux à long terme et bien planifiés, et surtout d'investissements qui répondent à des besoins de la population, notamment dans le cadre de l'urgence sociale et de l'urgence climatique. Or, la forte augmentation du budget et donc de l'endettement ne s'explique pas par des chantiers particulièrement ambitieux, mais traduit plutôt des mauvais choix, des retards ou des erreurs de priorité. La question des mobilités en est un bon exemple, malheureusement, aux dépens des habitantes et des habitants de la métropole, dont les besoins en la matière sont criants. Sur la question du vélo, par exemple, la passerelle Vadrino, dont la mise en service est annoncée cette fois-ci pour 2027, sans plus de précision, entraîne un coût annoncé de 7,17 millions d'euros, alors que les investissements dans le réseau de pistes cyclables pour cette année atteignent seulement 1,13 million d'euros. Je ne remets pas en cause l'intérêt de ce nouvel axe de passage, mais je déplore que l'action de la métropole en vienne presque à ne se mesurer qu'à cet ouvrage ou à une légère amélioration du réseau cyclable, tant c'est loin d'être à la hauteur par rapport aux besoins. Le rôle de la métropole doit être de démultiplier la pratique du vélo pour répondre à la crise écologique, mais aussi sociale dans le contexte de crise énergétique. Selon le baromètre Vélo 2025, initié par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette, les 6 communes de la métropole classées en 2021 et 2025 progressent. Mais quel progrès ? Elles passent de la catégorie défavorable à la catégorie plutôt défavorable pour la plupart d'entre elles. Metz les surpassant légèrement en atteignant la catégorie moyennement favorable. Ce n'est pas satisfaisant. Une progression aussi lente n'est pas à la hauteur des enjeux qui relèvent de l'urgence et c'est le résultat de vos choix. Et les solutions existent et ce sont les cyclistes et les associations de promotion du vélo qui en parlent le mieux. Les aménagements doivent s'adresser en priorité aux usagers du quotidien. Ils doivent être de qualité, permettre une continuité des itinéraires, de se déplacer en sécurité avec la création d'un réseau vélo express. Et les usagers et les associations doivent être impliqués et concertés dans une politique efficace. Gageons que pour le prochain PPI, il et elle soient pris en compte sérieusement. Car l'objectif est de permettre à de nouveaux usagers de franchir le pas et à la pratique du vélo de se démocratiser, de s'amplifier très fortement et très visiblement. Sur la question des transports en commun, c'est un sujet absolument central, voire crucial, et vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même dans les documents budgétaires, mais là encore, pour y apporter une réponse qui est tellement loin des enjeux, alors même que vos solutions sont coûteuses. Car oui, il faut le redire, le choix de l'hydrogène est un mauvais choix qui conduit au développement d'une stratégie mal contrôlée, car l'hydrogène est une technologie immature et coûteuse. Un bus hydrogène coûte jusqu'à plus du double du bus électrique, et donc un investissement risqué. Vous auriez dû faire le choix de l'électrique qui vous aurait permis de déjà respecter la loi climat et résilience. Nous pourrions dès aujourd'hui avoir une flotte de bus intégralement renouvelée et ainsi répondre à l'urgence. Mais au lieu de cela, nous voilà à observer encore au budget l'inscription de nouvelles locations pour 4 ans de bus 1000 hybrides pour 2,23 millions d'euros pour, dites-vous, permettre la transition vers l'hydrogène. Nous voilà en 2026 avec un réseau très défaillant, un très gros retard dans le développement de nouvelles lignes, un nombre croissant de bus en panne, des locations de transition, alors même que la demande de transport en commun par la population n'a jamais été aussi forte. Et je ne développerai pas cette fois-ci le volet social par les politiques tarifaires et la question de la gratuité, qui est évidemment un levier puissant qu'il faudra activer si l'on veut répondre aux défis qui nous font face. Ainsi, je nous épargne pour cette fois vos réponses aberrantes sur la gratuité qui serait anti-écologique. Les mobilités doivent être un objet d'investissement massif et même, pourquoi pas, d'endettement, mais efficace. Un investissement efficace, c'est financer une politique ambitieuse avec des objectifs planifiés, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction du trafic automobile sans réduction et sans entrave à la mobilité et dans la justice sociale. Nous espérons que le prochain PPI en prendra la mesure, car augmenter le budget et la dette, oui, mais pour de bonnes raisons, là, ce n'est pas le cas et c'est inquiétant. Enfin, je veux dire un mot encore de vos priorités budgétaires qui ont de quoi interpeller. D'abord, le monde de la culture, par ailleurs, dans une situation extrêmement difficile à cause des budgets nationaux en baisse, est également affecté par vos choix budgétaires. Je pense à la diminution de la programmation de la saison de l'Opéra Théâtre pour une baisse des dépenses de 305 000 par rapport à 2025, que vous justifiez par la rénovation et le caractère hors les murs, mais qui est en soi une baisse très importante de l'activité artistique. De même, la baisse des budgets consacrés aux divers festivals métropolitain, Hop Hop Hop, Constellation, même légère, comme elle est qualifiée, est une alerte sur là où se trouve la variable d'ajustement pour vos recherches d'économie. C'est un choix qui inquiète, comme le choix que vous faites à l'opposé, d'investir des sommes considérables dans la vidéosurveillance. Là, les coûts s'additionnent et atteignent là les 2 millions d'euros, alors même que la vidéosurveillance est une mesure inefficace contre la délinquance et pour la sécurité, coûteuse et surtout idéologique. Voici quelques exemples de choix budgétaires contestables, malheureusement pris dans un contexte financier très tendu. Et voilà pourquoi, bien sûr, nous voterons contre ce budget. Merci.
Merci, Madame Le Duc. Donc, Monsieur Secondé.
Oui, Monsieur le Président et chers collègues. Également, je m'associe à Charlotte Leduc pour remercier les services pour le travail qui a été accompli et notamment la qualité des documents qui ont été remis. J'articulerai mon propos en trois points, si vous le voulez bien. Ce budget est historique en ceci qu'il constitue un vrai basculement du modèle de financement en vigueur jusqu'ici. Deuxième point, La présentation qui est faite de la situation tendant à faire penser que tout est de la faute de l'État est trompeuse. Enfin, troisième point, alors que la mandature qui s'ouvre à des enjeux doit être de restaurer des marges de manœuvre, certains de vos choix vont aggraver les comptes alors qu'ils ne répondent à aucun besoin de la population. Alors tout d'abord, un basculement historique. Une hausse du budget à 405 millions d'euros, ce n'est pas un signe de dynamique, hein, on l'a vu, c'est le résultat d'une brutale augmentation de l'investissement reposant désormais grandement sur l'endettement et de l'intégration du résultat 2025 et des restes à réaliser. Alors comment sommes-nous arrivés là où nous sommes ? En matière de fonctionnement, à côté des recettes fiscales à Boulic, malgré des bases revalorisées de 0,8%, est soulignée la baisse des concours et compensations de l'État pour près de 4,9 millions d'euros, avec au total des recettes qui diminuent de 0,1%. La dynamique des charges conduit parallèlement à une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 2,8%, soit dit en passant, limitée à ce niveau par des économies sur certaines politiques publiques. Je cite juste ici la diminution significative de la programmation à l'Opéra Théâtre. Et on note surtout parmi ces charges la hausse drastique des remboursements des intérêts d'emprunt, plus 62% à 3,35 millions d'euros, seconde augmentation en importance des dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement en hausse de près de 3%, recettes en stagnation, effet ciseaux, résultat, c'est l'affaissement de l'épargne brute à 14 millions, un signal clair de dégradation financière. S'agissant de l'investissement, le décalage du fonds de compensation de la TVA qui fait perdre 4 millions est un mauvais coup, oui. Notons cependant que cela représente 2,7% de nos recettes d'investissement. En même temps, l'État ne se dérobe pas pour les aides à la pierre avec une hausse de 6 millions d'euros. Le remboursement des emprunts, lui, pèse 9,5 millions d'euros. C'est quand même 7% du volet dépenses. Vous ajoutez à tout cela une planification des investissements mal pensée et qui nécessite des ressources très élevées sur une seule année et vous êtes coincé. Le budget est équilibré par la dette avec une hausse historique de l'emprunt à 71,2 millions d'euros. Pour résumer sur ce point, jusqu'en 2024, les investissements étaient principalement financés par l'épargne et les ressources propres. L'inflexion de 2025 devient bifurcation en 2026 et nos dépenses d'équipement sont maintenant largement assurées par l'endettement. C'est en ceci que nous pouvons parler de rupture du modèle financier. Deuxième point, un État faillible mais qui a bon dos. Nous ne sommes pas contre l'endettement, nous sommes résolument pour quand il répond à des besoins réels et à la condition qu'il soit associé à une trajectoire de dette gérée intelligemment pour préserver la capacité d'autofinancement. Alors, ce n'est pas ce qui a été fait ici, parce que les investissements ont tardé et qu'il a fallu procéder dans la précipitation à leur lancement en fin de période de PPI que la machine se grippe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. Je cite son rapport publié en octobre 2025 à propos de la réalisation du PPI par rapport au calendrier prévu. Entre 2022 et 2024, peu a été dépensé au titre du PPI sur le total d'investissements prévisionnels. L'essentiel des investissements est prévu en 2025 et 2026, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les transports en commun, puisque en 2024, 19 millions d'euros avaient été dépensés sur un total de 122 millions d'euros prévus donc dans le PPI pour les transports en commun. Alors, pour masquer cette mauvaise gestion, et ses conséquences financières, on en fait des tonnes sur les défaillances de l'État. S'y rajoutent celles de choix discutables côté fonctionnement, par exemple la maintenance des caméras, qui coûte près de 1,5 million d'euros, et je ferai la remarque que c'est la moitié de l'augmentation des charges à caractère général. S'agissant des charges de personnel qui augmentent de 3,7 millions d'euros, 40% sont liées à des créations de postes. Bon, la matière, c'est assez opaque, et pourrions-nous avoir des détails pour 2026? Le rapport fournit bien des affectations pour les trois seuls postes qui sont créés. Celui de 2025 est en revanche particulièrement silencieux sur ce point, sauf pour ce qui est de la police intercommunale. D'ailleurs, qu'en est-il de la montée en puissance de la brigade que vous annonciez ? Rien cette année ? En réalité, l'effondrement de l'épargne brute, c'est largement du fait de l'envolée des charges financières et de celles à caractère général qu'il était possible de limiter. J'arrive à mon dernier point. La question de la soutenabilité d'une stratégie offensive d'investissement est posée alors que certains choix vont déjà, d'évidence, accélérer la spirale toxique. Comment allez-vous faire pour sortir la métropole de la situation de crise dans laquelle vous l'avez mise, à savoir chute de l'épargne brute, fonctionnement en tension, recettes stagnantes, recours massif à l'emprunt qui devient le principal levier d'équilibre, montée des intérêts. Là, il apparaît que nous sommes déjà dans le dur et que l'on puisse craindre des solutions comme la hausse des tarifs des services publics, la baisse de qualité de service, le gel des subventions ou la hausse d'impôts. Et j'ai déjà cité le théâtre. Donc, rassurez-nous, Monsieur le Président, sur vos solutions. Parce qu'il se dessine, avec certains de vos choix, déjà faits, déjà arrêtés, l'option hydrogène partiel pour les bus et les bennes, chaque véhicule coûtant jusqu'au double de sa version électrique, des dispositifs de vidéosurveillance et réseaux qui vont mobiliser près de 2 millions d'euros, j'ai rappelé le demi-million en fonctionnement pour les mises à niveau et la maintenance, ce qui se dessine donc, c'est une voie sans issue. Une stratégie d'investissement claire, un échelonnement des investissements avec des priorisations, un respect du calendrier, toutes choses qui permettent d'optimiser la charge financière des emprunts. Ces règles doivent s'appliquer maintenant au prochain PPI, car si l'endettement continue à augmenter, le poids des intérêts pourrait réduire à presque rien la capacité d'action de la métropole. Je vous remercie.
Merci, monsieur Secondé. Alors, maintenant, madame Bernardi.
Monsieur le Président, chers collègues, pour commencer, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce document, document de grande qualité. À la première lecture de ce budget, on peut comprendre que beaucoup d'actions vont être entreprises. Mais je dois dire qu'on ne voit pas un cap clair émerger, mais plutôt un inventaire de propositions, sans réellement lire les priorités politiques envisagées. Et surtout, pour justifier la mise en place de toutes ces actions, on ne trouve nulle part la trace d'un bilan, d'un état des lieux des besoins des habitantes et des habitants de la métropole. Prenons par exemple la cohésion sociale, qui à mon sens devait être la colonne vertébrale des choix budgétaires d'un bassin de vie métropolitain. Agir sur la cohésion sociale, c'est avant tout partir de la réalité. À Metz, près de 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté, jusqu'à 60% dans certains quartiers. Cela signifie concrètement des familles qui ont du mal à payer leur loyer, des jeunes qui renoncent à se loger, des quartiers où les inégalités se concentrent, une pression de plus en plus grande sur les demandes de logements sociaux. Certes, sur le papier, la métropole affiche des moyens. On y trouve notamment pour le logement plus de 11 millions d'euros d'aide à la pierre. Mais vous le précisez vous-même, ces aides sont entièrement financées par l'État et ne résultent pas d'un effort de la métropole. À côté de cela, les efforts eux consentis par les métropoles paraissent bien faibles au regard des besoins. 180 000 euros pour la politique de la ville répartie sur 8 quartiers, c'est bien maigre. Seulement 90 000 euros pour les acteurs associatifs, on peut faire mieux. 115 000 euros pour soutenir le plan logement d'abord, destiné à lutter contre le sans-abrisme, là encore, face à une situation qui s'est dégradée, cela reste très insuffisant. On aperçoit le décalage qu'il y a entre les besoins et les réponses apportées. Les habitantes et les habitants n'attendent pas seulement des aides ponctuelles, elles ont besoin de logements réellement accessibles, d'une baisse du coût de la vie, de services publics renforcés. Or, ce budget se place dans une logique d'accompagnement. On aide, mais on ne s'attaque pas à ce qui produit les inégalités. On agit sur les conséquences et pas sur les causes. Où est la politique tournée vers l'accessibilité à de nouveaux logements sociaux ? La priorité est donnée à la rénovation, certes prioritaire, mais encore insuffisante et qui ne permet pas concrètement d'augmenter significativement le nombre de logements accessibles. Où est la politique de régulation du marché ? Une politique volontariste pourrait, par exemple, imposer des quotas de logements sociaux ou encore encadrer des loyers. Résultat, on continue d'exclure les plus modestes. Et à côté de cela, d'autres priorités se développent. Les investissements croissants dans le domaine de la sécurité. On peut prendre par exemple le cas des vidéosurveillances. De la vidéosurveillance, 2 millions pour la vidéosurveillance, par rapport à ce que je viens de dire, c'est énorme. Cela pose une question simple. Face à 24% de pauvreté, faut-il prioriser le contrôle et la répression ou améliorer concrètement les conditions de vie ? Les habitantes et les habitants ne demandent pas seulement plus de sûreté, ils demandent plus de justice sociale, plus d'égalité, plus de perspective. Or, un budget qui gère les difficultés, accompagne les inégalités, mais refuse de s'attaquer à ce qui les produit, ne répond pas pleinement aux besoins de la population. Et c'est bien là toute sa limite. Merci de votre attention.
Merci, monsieur Bernardi. Alors, Madame Bernardi, et je donne la parole à Monsieur Merz. Voilà. Monsieur Merz, c'est à vous.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous sommes dans un exercice convenu. En général, la majorité, c'est même d'ailleurs toujours le cas, explique qu'elle a un excellent budget, que tout va bien, et l'opposition, on vient d'en avoir la démonstration, explique que rien ne va plus et que nous courons à la catastrophe. Je vais essayer, si vous le permettez, d'échapper un peu à cette façon très convenue de faire les choses, de voir les choses, pour entrer dans une discussion peut-être plus constructive. Le législateur a prévu que le débat budgétaire doit être précédé d'un débat d'orientation budgétaire. C'est le débat que nous avons eu il y a maintenant une quinzaine de jours. Et donc la logique voudrait que les propos tenus au moment du débat budgétaire soient dans la continuité de ceux qui avaient été tenus dans le débat d'orientation budgétaire, si du moins on veut être cohérent. Mais pour autant, il ne s'agit pas de répéter la même chose. Et donc je vais essayer de développer quelques idées pour essayer de faire avancer le sujet. Je relève que les métropoles, les EPCI en général, se comportent comme une strate supplémentaire dans l'organisation des collectivités territoriales dans notre pays. C'est-à-dire qu'elles viennent abonder les projets des collectivités qui la composent. Or, il me semble que le législateur, quand il a réorganisé les collectivités dans notre pays, a imaginé les choses de la façon suivante. Il appartient aux communes et aux départements de gérer le quotidien, et il appartient aux EPCI, et particulièrement aux métropoles, qui ont la taille suffisante, avec les régions, de se projeter dans l'avenir et de développer des politiques stratégiques qui permettront de préparer l'avenir. Et il est vraiment besoin de préparer l'avenir. Nous voyons bien que nous sommes à un moment de l'histoire du monde où de multiples périls convergent vers nos sociétés. On a évoqué bien évidemment le réchauffement climatique et la détérioration de l'environnement qui nous oblige à repenser non seulement à la manière de produire et de consommer, mais aussi les méthodes auxquelles nous allons devoir recourir pour anticiper les modifications du climat, notamment qui sont en cours, car on voit bien qu'on n'y échappera pas. Et de ce point de vue-là, on ne voit pas très bien quelles sont les lignes stratégiques que vous développez. Et puis, on voit bien qu'on est entré dans une crise économique profonde qui tient, à mon sens, aux limites du mode de production dans lequel nous sommes engagés et aussi au fait que il va devenir de plus en plus difficile de mobiliser de l'énergie. Pas besoin de développer ce point-là. Nous sommes dans un moment économique où chacun le relève. Et donc, là encore, il faut développer des lignes stratégiques. Et je ne crois pas que le recours à l'hydrogène soit la réponse, l'alpha et l'oméga de ce problème-là, parce que, comme cela a été dit par les précédents orateurs, c'est probablement une technique qui aura peut-être de l'avenir. D'ailleurs, je retire le probablement. C'est une technique qui aura peut-être de l'avenir, mais en tout état de cause, elle ne semble pas mûre. Et donc, là encore, je vous renouvelle, dans la continuité de ce que je vous disais lors du débat d'orientation budgétaire, je vous renouvelle cette question. Quelle est la ligne stratégique que vous comptez développer? J'ai bien écouté tout à l'heure Monsieur le Vice-président en charge du budget, et j'ai bien vu qu'on intervient dans telle ou telle collectivité, on développe tel ou tel projet, mais je n'ai pas distingué quelle était la ligne stratégique, c'est-à-dire où voulez-vous nous conduire? Vers quelle destination la métropole veut emmener ce territoire à l'échéance de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je ne le distingue pas et je pense qu'il serait utile que dans le mandat dans lequel nous sommes engagés, nous puissions définir cette ligne stratégique et de façon à répondre aux grands enjeux de notre temps, tels que ceux que je viens très brièvement de décrire. Et puis, sur le plan strictement budgétaire et des chiffres, cela a également été dit, il est vrai que on a tous relevé que la capacité d'autofinancement diminue fortement, l'épargne brute recule, les dépenses de fonctionnement augmentent, alors que les recettes stagnent. Pour compenser, la métropole recourt massivement à l'emprunt, on est à plus de 71 millions d'euros, et on doit relever également que la mutualisation des services avec la ville n'a pas permis d'économie d'échelle, puisque en réalité, on a une augmentation de 1,3 million d'euros de ces dépenses. Pour essayer de limiter les effets, vous faites des choix de réduction de certaines dépenses, notamment dans la programmation culturelle ou dans les subventions à Inspire-Metz. Et donc, je vous pose là une question très claire, Monsieur le Président. Est-ce que ce budget 2026 annonce un budget 2027 avec une augmentation des impôts? Voilà les observations que je voulais vous faire, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci.
Je vous remercie, Monsieur Merz, et je donne la parole maintenant à Monsieur Riffaut, je crois. Ouais.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, en vos grades et qualités, je remercie avant tout les services pour le travail et les documents fournis. Mais à la lecture de ce budget primitif, je trouve que notre métropole manque de courage et d'ambition sur les sujets du logement, de l'habitat et du renouvellement urbain. C'est un paragraphe, page 29 du document. Je vais me permettre, parce que c'est mon métier, de rappeler quelques chiffres à nos collègues. Notre PLH ambitionnait la production de 1100 logements par an. La production en chiffres, sur les dernières données de la Guram 2023, donc qui a été produite en 2024, c'est en moyenne, sur les derniers exercices, 670 logements par an. Donc à peine, péniblement, 61% des objectifs. L'économie de la construction est en difficulté, c'est un fait, je le concède, mais en 2023, elle ne l'était pas, puisqu'elle profitait encore du boom après Covid. Alors, peut-être que c'est des mauvais choix, de mauvais produits au mauvais endroit. Toutefois, sur notre métropole, nous constatons que 55% de la population, des habitants de la métropole, dispose de revenus qui permettraient d'être éligibles à ce qu'on appelle un budget plus dans le logement conventionné. Si à cette population nous ajoutons la population éligible au PLS et au LLI, nous atteignons 70% de la population pour une production moyenne de logement social ou conventionné inférieure à 30%. Il faut absolument que nous puissions soutenir la production de logements conventionnés sur notre territoire. Et pas uniquement sur les gros pôles urbains, parce que c'est des réponses qui peuvent être sur toutes les communes. Il faut répondre également à la problématique des petites typologies. Donc dans les chiffres aujourd'hui, vous avez 286 demandes de petites typologies pour 100 logements disponibles. Donc aujourd'hui, les petites typologies sur le dernier exercice ont été essentiellement produites sur des produits de défiscalisation. Donc c'est-à-dire que c'est des investisseurs qui produisent 98% d'ET1 et 86% pardon, d'ET2. Donc c'est-à-dire que c'est du produit locatif privé, donc non pas fléché pour les profils de la population. Le mal-logement pèse sur les plus fragiles. Ma collègue précisait que 24% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est une population qui ne pourra pas acheter. Sur le dernier chiffre, le prix moyen du logement neuf à Metz, enfin sur la métropole, pardon, c'est 3 960 euros au mètre carré. Je pense qu'il serait intéressant, comme l'ont mis en place certaines métropoles, des accompagnements financiers pour le logement conventionné. Il faut également avoir une visibilité et une stratégie foncière à long, moyen et court terme pour permettre de mettre sur le marché des emprises foncières. Je vais revenir aux objectifs du PLH. 1100 logements, ça représente pour l'économie locale 115 millions d'euros pour des entreprises qui travaillent sur notre territoire. Donc on n'a pas besoin d'aller inventer des ressources et faire venir des data centers qui en mangeront 20 personnes. On a la capacité aujourd'hui de produire de l'emploi et de maintenir de l'emploi sur notre territoire. Notre besoin en construction est nécessaire et impératif, car le besoin de typologie fait mécaniquement baisser le volume de population à nombre de logements équivalents. Pour une stabilité économique de notre économie et de nos infrastructures, nous devons avoir le courage d'une politique d'habitat et de logement beaucoup plus ambitieuse qui réponde réellement au profil des habitants de la métropole. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Riffaut. Monsieur Anstedt.
Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je serai bref parce que j'ai déjà exposé en fait mes chiffres lors du dernier débat d'orientation budgétaire. Donc je vais essayer ce soir donc de présenter deux souhaits, une explication de vote et également une vision presque philosophique pour terminer. Donc le premier souhait, c'est permettez-moi donc de rappeler encore une fois, je suis désolé, une réserve de fonds quant à la construction de ce budget, c'est plutôt une réserve de ce qui lui manque, c'est-à-dire une annexe supplémentaire. Et ce qui lui fait défaut, c'est très simplement en fait une vision de performance a posteriori, juste après. Votre budget comporte ligne et intention, c'est très bien. Il doit s'inscrire également dans une logique donc d'évaluation. et j'aimerais véritablement que des éléments suffisamment précis nous soient apportés pour permettre d'apprécier l'impact des politiques passées. Comment décider de reconduire, d'augmenter, d'amender, de réduire une dépense si nous ne disposons pas d'indicateurs clairs sur son efficacité ? Car vous en conviendrez, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je souhaite vivement que les prochains budgets, Monsieur Horry, si c'est possible, présentent un bleu budgétaire, comme c'est le cas par exemple à l'Assemblée nationale, un paperap. Même sommaire, ce serait, je crois, une grande avancée. Le deuxième souhait, c'est j'aurais aimé, et je crois ne pas être le seul ici ce soir, être informé de la ventilation des dépenses, en fait, sur les dépenses d'investissement commune par commune. Je sais bien que certaines infrastructures, certaines dépenses, et notamment l'investissement, ça ne s'arrête pas au seul territoire communal, que les frontières sont ouvertes, n'est-ce pas ? Mais l'impression demeure tenace qu'il y a une certaine centralisation des dépenses. Donc, ce serait intéressant que nous sachions, sur les années à venir, combien investissons-nous concrètement dans chacune des communes de la métropole. Je crois que c'est un document qui serait véritablement enrichissant. Ensuite, venons-en à une explication de vote beaucoup plus précise. Elle concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que chacun de nos concitoyens paye pour que les poubelles soient ramassées. Je vous rappelle que le rapport de la Cour des comptes, de la Cour régionale des comptes, publié en 2025, est sans appel. Les excédents, donc entendez le trop perçu, c'est-à-dire l'argent prélevé en plus du strict nécessaire pour le financer, atteignent en moyenne 16% sur l'année 2025 au compte administratif. Et ce, de manière récurrente, en fait. Or, mes chers collègues, les juges administratifs ont déjà condamné des EPCI pour des écarts précisément de cet ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le respect des contribuables, ne pas trop dépenser, ne pas trop prendre, mais également pour le risque contentieux, il faut baisser ce taux. Maintenir le taux actuel, c'est exposer notre métropole à une fragilité juridique évitable. Permettez-moi enfin une réflexion d'ordre un peu plus philosophique sur la place d'une métropole. Il n'existe dans cette intercommunalité, comme dans toutes les intercos françaises par ailleurs, aucune évaluation sérieuse des économies d'échelle, pourtant ultime justification de la naissance d'une interco. Or, qu'était-ce au juste l'esprit de la loi de Chevènement de 1999, celui de la loi RCT de 2010, mais également la loi MATAM en 2014. Distinction sujet quotidien pour les communes, préparer l'avenir pour les métropoles, non pas du tout, ce n'est pas vrai, monsieur Merz. Les déchets, c'est le quotidien, et pourtant, c'est le principe qui est géré par les métropoles. Le but d'un EPCI, c'est précisément de mutualiser, de rationaliser, de partager les coûts pour baisser les dépenses. Partager les coûts pour baisser les dépenses. Je m'interroge donc, pourquoi nous ne présentons jamais l'évolution du budget de la métropole, qui année après année augmente, comparée à celle des budgets de nos communes, qui, elles, délèguent des compétences. La métropole exerce les compétences déléguées en lieu et place des communes, et non pas en plus d'elles. L'augmentation du budget de la métropole devrait donc, par un simple effet de vase communicant, s'accompagner d'une baisse continue des budgets communaux sur ces politiques. Le vérifions-nous par respect des contribuables ? Je ne le crois pas. Je me permets une parenthèse à l'intention de nos amis journalistes qui sont présents. Il y a là, me semble-t-il, un vrai sujet de transparence politique et de transparence en termes de dépenses publiques locales. Les budgets des intercos partout en France augmentent, et je vous le donne en le mille, le budget des communes augmente aussi. Où est donc la logique de rationalité, justification même de l'existence d'une interco ? La logique m'échappe. Les Français paient-ils moins d'impôts depuis la création des intercos ? La logique m'échappe. Les habitants de Metz Métropole paient-ils moins d'impôts locaux au fur et à mesure que Metz Métropole prend de plus en plus de compétences ? La logique m'échappe. Les votes de mon groupe. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, sur le budget général, nous voterons contre. Sur le taux de fiscalité directe locale, nous nous abstiendrons tout en saluant la non-augmentation cette année des taux. Sur le taux GEMAPI, dont le maintien est proposé, nous voterons pour. Et sur le taux TOM, pour les raisons exposées, nous voterons contre. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Anstett. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Grégoire.
Je vais être bref, mais réellement. Monsieur le Président, mes chers collègues, Saint-Julien votera contre ce budget. En effet, les recettes stagnent, moins 0,1%, l'épargne brute chute en un an et le déficit est comblé par l'emprunt. 52 millions autorisés en 2025, 71,2 millions autorisés en 2026, soit plus de 36% en un seul exercice. Appelons les choses par leur nom, qu'on les qualifie d'équilibre ou non, ces emprunts sont contractés auprès des banques et devront être intégralement remboursés. La preuve de leur coût est déjà visible, les charges financières bondissent cette année, conséquence directe des emprunts de 2025. Ce que nous autorisons aujourd'hui produira le même effet sur les budgets à venir. En tant que représentant de Saint-Julien-les-Metz, je prends date formellement au procès-verbal. Les emprunts autorisés aujourd'hui grèveront les budgets métropolitains sur le long terme et réduiront les marges de manœuvre de toutes les communes membres. Saint-Julien demande donc que cette opposition soit actée afin que nul ne puisse prétendre demain de ne pas avoir été alerté. Merci.
Merci, Monsieur Grégoire. Donc, je donne maintenant la parole à Monsieur Siamana.
Je ne vais pas vous tourner le dos. Chers collègues, très rapidement, remercier également la présentation qui nous était faite du budget primitif. Je voulais revenir évidemment sur le budget qui me concerne, sur la délégation enseignement supérieur, et me réjouir que dans les conditions extrêmement contraintes qui ont été rappelées très bien par Thierry Horry, dans un contexte également de baisse des crédits à l'échelle nationale aux universités, aux organismes nationaux de recherche, dans un contexte où notre propre région, comme beaucoup d'ailleurs de régions de France, ont supprimé un certain nombre de dispositifs d'accompagnement à l'enseignement supérieur, voire notamment dans un contexte où certains départements, dont en particulier également le département de la Moselle, revoit un certain nombre de ses politiques. Nous sommes sur un budget constant par rapport aux politiques d'enseignement supérieur, recherche et innovation, qui, selon moi, dans le contexte que j'ai rappelé, traduit une position extrêmement volontariste et évidemment politique de la métropole sur ces questions qui sont essentielles pour le développement et l'attractivité de notre territoire. Deuxième point que je voulais rappeler, parce que évidemment c'est le début de la mandature, quand on regarde un budget à 3 millions d'euros sur l'enseignement supérieur, ce qui est le cas dans le budget qui vous est proposé, on ne voit pas en fait la réalité de ce que ça nous rapporte. Certains l'ont évoqué, de voir la réalité des chiffres. Derrière l'investissement du mandat précédent, qui du coup prend toute sa maturité dans ce mandat actuel, sur 12 millions d'euros à peu près du projet d'investissement sur l'immobilier universitaire, ça représente l'équivalent de 40 millions d'euros d'investissement sur l'immobilier universitaire de notre métropole. Grâce à quoi ? Grâce à un effet levier qui est éminemment politique et décisionnel d'accompagner ces fonds de la métropole par des fonds de la région, par des fonds de l'État, par des fonds des opérateurs universitaires. Et quand vous voyez, chers collègues, un apport de 400 000 euros sur un projet universitaire, c'est un projet en fait à 1 500 000 euros. Donc il faut regarder les chiffres en termes de coûts complets. Troisième message que je souhaitais vous indiquer, c'est que ce budget en fait traduit aussi la maturité de la vision qui a été la nôtre pendant le mandat précédent, qui a fait l'objet d'une stratégie que vous avez adoptée en 2022 jusqu'en 2026. Concrètement, sur 13 lignes d'action, elles sont toutes en train de se dérouler et ce sont des projets de formation nouvelles, qui se créent, ce sont des rénovations énergétiques de bâtiments, ce sont des installations de centres de recherche de qualité européenne, voire mondiale. Ce sont des partenariats industriels nouveaux, des chaires industrielles nouvelles qui se créent. Et vous avez parlé d'indicateurs, je vous en donnais quelques-uns. Alors évidemment, excusez-moi, j'avais oublié qu'on fête les deuxièmes anniversaires de la Maison des étudiants, qui chaque jour reçoit des centaines de visites et chaque mois des centaines d'événements. Et la Mieux, qui regroupe en son sein 17 opérateurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ce qui est inédit pratiquement à l'échelle nationale, concentré dans un lieu d'environ 1000 m². Et on parle quelques chiffres. Au niveau développement de l'enseignement supérieur, vous savez, il y a un indicateur qui ne ment pas. C'est est-ce que les opérateurs privés ont envie de créer du logement étudiant sur le territoire ? On a un observatoire territorial du logement. On a identifié à 5100 logements à peu près le nombre de logements dédiés. On avait estimé les besoins à environ 5% de logements supplémentaires. Dans le mandat précédent, c'est 10% de logements supplémentaires qu'on a créés. Et à l'heure où je vous parle, sur le Technopôle, ce qui n'est pas l'entièreté de la métropole, c'est 850 logements étudiants qui sont en cours de construction. C'est 20% logements étudiants en plus. C'est inédit à l'échelle nationale. Et ça, ça donne tout de suite la température de ce qui se passe à l'échelle de la métropole. Au niveau entrepreneuriat, les levées de fonds, le chiffre d'hier, l'observatoire des levées de fonds à l'échelle nationale, qui est régionalisé ici en Grand Est, 295 millions d'euros pour les entreprises, les start-up du Grand Est l'an dernier sur l'exercice 2025. C'est 100% d'augmentation par rapport à l'exercice précédent. Et sur la métropole de Metz, sur l'an dernier, c'est des dizaines de millions d'euros de levée de fonds de nos start-up. Et je vous annonce quelque chose que j'ai lancé hier, nous étions à Strasbourg. La métropole de Metz, je pense que c'est la première fois, excusez-moi si j'ai tort, vous me corrigerez, sera présent sur Vivatech. Vivatech, c'est le salon probablement européen des technologies, 180 000 visiteurs, 15 000 startups, 3 000 fonds d'investissement. Nous aurons un stand, nous emmenons 4 entreprises, 4 startups du territoire qui ont levé chacune 4 millions d'euros de fonds l'an dernier. Et pour terminer, un point de vue plus politique, si vous me permettez. Vous dites un budget, c'est faire des choix. Alors, Madame le Duc ou Monsieur Secondet, quand vous irez sur l'île du Saulcy la prochaine fois faire une consultation sur la gratuité des transports en commun, vous expliquerez à des étudiants qu'au lieu de payer 52 centimes par jour pour l'illimité en transport en commun par jour, et en faisant la gratuité, vous les priverez donc de la rénovation totale de leur logement, de passoires énergétiques dans leur logement qui seront installées, de l'absence d'infrastructures sportives, de la non-prise en compte du repas à 1 euro, de l'absence d'accompagnement de maisons des étudiants, de l'absence de programmation culturelle dans les établissements universitaires. Et je pourrais faire la liste, elle est longue. Faisons la relation entre ce que vous nous demandez de prendre en charge en termes de dépenses et ce que vous ne leur apporteriez. Autre message politique, parler de vision. La vision, elle est là. Et je fais une annonce également ce soir. J'aime bien qu'on fasse un bilan, vous l'avez cité, de notre stratégie métropolitaine. Et avec Monsieur le Président, nous amorcerons en septembre 2026 une phase de consultation avec les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation pour amener vers vous une nouvelle stratégie au premier trimestre 2027 dans un contexte éminemment politique. Puisque l'État a lancé les assises de financement des universités. Pour être franc, je n'y attends pas grand-chose, mais on verra la surprise. Et deuxièmement, nous serons en phase électorale à la présidence de l'université. Et ça sera l'occasion pour le territoire de rappeler ce que nous souhaitons pour le territoire et nous espérons être lus et être entendus. Je vous remercie.
Merci. Merci, Monsieur Siamana. Monsieur Lebeau.
Monsieur le Président, chers collègues, juste une petite précision, parce que j'ai entendu beaucoup de contre-vérités, mais il y en a une qui est absolue, c'est celle de dire que ce budget est en déficit. Aucune collectivité française peut avoir un budget en déficit. La preuve en est, tout le monde a reconnu qu'il y avait une épargne brute de 14 millions d'euros. Certes, elle passe de 20 à 14, mais il y a bien une épargne brute positive de 14 millions d'euros. Donc on peut tordre le cou à cette fausse vérité, à cette fake news, de dire que le budget est déficitaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce budget primitif 2026 nous place face à une réalité, celle d'un budget ambitieux pour notre métropole. Oui, ce budget est ambitieux. Comme l'a excellemment présenté notre vice-président aux finances, Thierry Horry. Il n'y a, deuxième fake news, il n'y a pas de retard. Les investissements arrivent à l'heure. Parce que on oublie ce qui s'est passé au précédent mandat. 2020-2021, il y avait le Covid. 2022, la guerre en Ukraine. 2022-2023, l'inflation. Heureusement, et je ne reparle pas les propositions de l'opposition d'alors qui étaient de faire 150 millions d'investissements sur le budget 2022.
En 2020.
Ouais, 2020. Oui, c'est 2020, c'était encore pire. Donc, je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des investissements qui arrivent et qui sortent du fait d'un contexte exogène à notre métropole et qui répondent à des besoins. Pour la population, la stratégie est claire et en trois axes, parce qu'on nous dit, là aussi, il faut tordre le cou, il n'y a pas de stratégie. Je rappelle que, et dans le document de débat d'orientation budgétaire, et dans le budget primitif 2026, les trois axes stratégiques sont clairement énoncés. Donc je suis obligé de redire qu'il y a trois axes qui sont clairement énoncés. Il y a la transition écologique, un impératif pour tout le monde, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, et avec des actions concrètes et ciblées, comme l'a présenté Thierry Horry. Deuxième axe, l'activité économique pour soutenir nos entreprises et les emplois, et c'est bien la vocation d'une métropole. Et ensuite, troisième axe, la cohésion territoriale pour un développement équilibré, puisque si la métropole avance, toutes les communes doivent avancer au même rythme. Avec 405 millions d'euros, ce budget traduit une volonté forte d'agir pour notre territoire, notamment à travers des investissements majeurs. Nous devons certes recourir à un emprunt important de 71 millions d'euros. C'est un choix. C'est aussi pour préparer l'avenir au mieux. Et quand je vois qu'il faudrait préparer l'avenir et qu'on conteste le fait d'avancer sur l'hydrogène. Alors on dit peut-être que ça sera bien demain. Mais si jamais personne n'essaye, le demain ne se réalisera jamais. Et ce que je reconnais fortement, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie dans cette métropole. C'est qu'on ne fait pas le tout hydrogène, ou on ne fait pas le tout hydrogique. On marche sur deux jambes, et c'est sûr, le seul moyen d'avancer, c'est qu'on est sur deux jambes, on fait hydrogène, électrique, et comme ça on avance. Donc, aujourd'hui, certes, cet emprunt de 71 millions d'euros va peser sur les marges de manœuvre des prochaines années. Et pourquoi nous en sommes là? Parce que nos recettes stagnent, et surtout parce que les décisions nationales pèsent lourdement sur nos finances. Alors, j'ai entendu un des orateurs parler de la hausse de la masse salariale. Et il n'a pas connaissance, dommage, parce que c'est écrit dans le rapport, que c'est dû principalement à une décision de l'État, à une augmentation du taux de cotisation, une donnée exogène à cette Assemblée. Et elle pèse lourdement, et elle va continuer à peser lourdement sur les prochains exercices, puisque le taux augmente chaque fois. Ensuite, les suppressions de certaines dotations, baisse des compensations, décalage du FCTVA. Au total, ce sont plusieurs millions d'euros de pertes pour notre collectivité. Nous devons être lucides et responsables. Lucides parce que nous entrons dans une période où chaque euro comptera davantage. Responsables parce que nos choix d'aujourd'hui engagent l'avenir de notre métropole et de ses habitants. Ce budget montre une volonté de maintenir le cap, notamment sur la transition écologique, la cohésion sociale, l'attractivité du territoire, et c'est légitime. Mais ils appellent aussi à une exigence renforcée, prioriser nos investissements, maîtriser durablement nos dépenses et sécuriser nos ressources. Car l'enjeu n'est pas seulement de continuer à investir, l'enjeu est de le faire sans fragiliser durablement nos finances. C'est à cette condition que nous pourrons garantir dans la durée un service public de qualité et un développement équilibré de notre territoire. Je vous remercie.
Merci Monsieur Lebeau. Monsieur Jean-Luc Baule.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais apporter quelques éléments de réponse sur ce qui a été affirmé tout à l'heure par les collègues Charlotte Leduc et Jean-François Segondé quant à la baisse, je cite, de la programmation de l'Opéra Théâtre, pour vous dire qu'en effet, pour votre parfaite information, il s'agissait juste d'adapter, en fait, durant les travaux, les choses, de faire preuve donc d'innovation dans les répertoires, et il nous a fallu également nous adapter financièrement, par conséquent, et adapter les formats des spectacles dans d'autres lieux. En effet, ça nécessite bien un peu moins de décors, moins de personnel extérieur. Et donc, Paul-Émile Fourny et l'ensemble de l'équipe, que j'en profite ce soir pour les remercier de cette période qui n'est pas facile pour eux, parce qu'il faut vraiment essayer de trouver une forme d'agilité dans le choix à la fois des salles, des lieux. Et on a pu voir récemment que Norma de Bellini à l'Opéra, à l'Arsenal, c'était un moment remarquable de semi spectacle en semi décor, que à la Basilique Saint-Vincent avec un pianiste et Thierry Frémont remarquable sur les 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn était également de nature à valoriser un lieu qui était qui est complètement méconnu par le public. Et donc c'était le premier aspect, la première approche pour ce lieu sublime complètement méconnu du grand public. Et puis je vous donne rendez-vous au samedi et dimanche pour à l'Arsenal également une grande œuvre du répertoire, le Requiem de Verdi. Donc si vous voulez, voilà, tout à l'heure on a évoqué également dans la discussion la question de la ligne stratégique, et c'est Bertrand Merz qui l'a évoqué. Alors moi je pense que, et il me semble, peut-être je me trompe, hein, mais que le choix de la culture est un choix politique résolument stratégique qui permet à notre qui a permis à notre métropole de se propulser parmi les grands territoires de France et d'Europe, dont l'attractivité et le rayonnement résultent bien des choix et des projets ambitieux que nous avons portés, que nous portons encore. Et je pense bien entendu au Centre Pompidou-Metz où j'étais encore aujourd'hui avec ces superbes expositions, le musée de la Cour d'Or, bien évidemment l'archéologie préventive. Je vous conseille d'aller visiter également la maison d'archéologie et du patrimoine, qui est un lieu magnifique, qui est là aussi peut-être pas suffisamment mis en exergue, et également des établissements d'enseignement artistique comme l'ESAL ou le conservatoire, qui occupent une place de tout premier plan en France et qui d'où sortent des grands artistes. Et puis il me semble enfin que investir 35 millions pour rénover un opéra théâtre du XVIIIe siècle. J'ai visité tout à l'heure ce chantier, qui est un chantier magnifique, et je vous proposerai probablement une visite ultérieurement si, pour les collègues que ça intéresse. Mais c'est une chance pour un territoire, et ça également, c'est un élément de preuve particulièrement significatif quant au choix que nous faisons. Et il ne me semble pas qu'actuellement en France on dépense autant pour la culture en termes d'investissement dans les territoires, évidemment, de notre strate. Alors, je vous rassure, il faudra, par conséquent, une fois que nous aurons à réintégrer ce magnifique opéra tel qu'il était, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, eh bien, penser également à réadapter notre format financier pour permettre qu'à nouveau, on puisse y faire des opéras et le répertoire qui est adapté pour un tel lieu qui sera une fierté partagée.
Merci, Monsieur Ball. Monsieur Horry.
Bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé dans les interventions de nos opposants rien de neuf dans les différentes interventions par rapport à notre ROB. Souvent des reprises de nos chiffres avec, il me semble, une vision biaisée et des affirmations sans preuve. Alors, dans quelques fois, j'ai cru que nous étions à l'Assemblée nationale. Dans d'autres fois que nous étions au Café du Commerce, je crois qu'il est doux d'être dans l'opposition, en tout cas à la métropole. On peut dire aujourd'hui le contraire de ce que l'on avait dit hier et l'inverse de ce que l'on dira demain. En fait, tout est bon dans la critique. Ceci étant, j'ai noté quelques prises de position qui méritent une réponse peut-être immédiate. D'abord, sur les lignes stratégiques, nous sommes dans la fin d'un PPI. Alors peut-être qu'on ne le voit pas quand on est sur la fin d'un PPI, mais bon, peut-être aussi parce qu'on vient d'arriver à la métropole, mais quelque part, et le maire que je suis, je peux vous dire que les grandes interventions de nos politiques publiques, au moins j'en citerai trois. D'abord la transition écologique, mais je paraphraserai Emmanuel Lebeau, mais également l'attractivité, parce que c'est important effectivement, et surtout aussi, et je veux le témoigner en tant que maire de Marly, le développement de l'ensemble de notre territoire, de l'ensemble de notre territoire. J'ai noté avec intérêt l'évaluation des politiques publiques. Tout le monde souhaite le faire, donc j'attends des propositions concrètes. Pourquoi pas le voir. Permettez-moi cependant, sur l'atome, on peut effectivement voir une solution, la baisser. Il y a peut-être aussi autre chose, augmenter le rythme d'installation des infrastructures, et c'est là où on a peut-être encore des marges de manœuvre à avoir pour pouvoir installer notamment les paves au centre-ville, etc. Mais ça va venir par ailleurs. Enfin, permettez-moi de vous dire, bien sûr, je souscris aux propos des collègues de la majorité, Marc et Emmanuel, mais surtout dire que ce que je n'ai pas senti dans les interventions de l'opposition, c'est d'abord ce qui est occulté, c'est le rôle délétère en matière budgétaire de l'État vis-à-vis des collectivités locales. Et il y a même eu, j'ai cru croire qu'il y avait une tentative d'explication que nous étions dans le faux, mais je n'ai rien entendu sur le sujet. Je crois que, reprenez bien les chiffres, l'État, effectivement, n'est pas jusqu'à à ce moment-là une aide pour nos collectivités, notamment les EPCI. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en tant que rapporteur.
Merci, monsieur le rapporteur et vice-président chargé des finances. Je me fais un peu la même réflexion. Je me suis dit, mais tiens, mon opposition qui n'a fait que de la politique nationale pendant les élections municipales a tout d'un coup viré macroniste. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans la difficulté budgétaire. Eh bien non, il n'y a pas de responsabilité de l'État. Ils nous ont juste amputé de 10 millions de recettes de fonctionnement par an et de façon récurrente. Enfin, désormais, c'est, on passe d'un budget de, on en aurait 215, on en a 205. Enfin, on nous a enlevé 5% des recettes de fonctionnement. Entre l'augmentation d'un certain nombre de charges, par exemple des cotisations sociales des agents des collectivités locales, ou encore le Dilico, ou encore la suppression de la compensation de la suppression de la taxe professionnelle. Bref, au total, on a 10 millions d'euros en moins. Et à ce moment-là, l'opposition explique non, c'est pas le problème. Le problème, c'est juste que la métropole a accéléré fautivement ses investissements à l'exécution de son PPI. Alors, je suis désolé. D'abord, nous exécutons le PPI. Nous n'avons pas accéléré fautivement dès le départ. On a largement expliqué les difficultés au démarrage d'un mandat qui a déjà commencé avec presque 6 mois de retard face au actif, déjà un deuxième tour 3 mois plus tard, une prise en main beaucoup plus difficile, une urgence donnée à la crise sanitaire, un doute total sur ce qu'allait être en perspective budgétaire, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est quasiment un mandat où on a perdu 2 ans. Et donc, effectivement, lorsque souvent le fort de l'investissement sur un mandat de 6 ans, c'est en général la 4e, c'est rarement, ça commence à la 3e et c'est surtout la 4e et la 5e année. Là, effectivement, on a un différé de 2 ans. Bon. C'est la première chose. Et donc, ce qu'on dit nous explique les difficultés ne viennent pas de l'État. Elles viennent de ce que vous avez accéléré les investissements. Non, on l'a fait au rythme annoncé et au rythme qu'on avait même annoncé à la Chambre régionale des comptes, qui n'a juste pas voulu le croire. Et la Chambre régionale des comptes, dont certains font état, fait un exercice rétrospectif et pas prospectif, chacun son métier. Et ce n'est pas manifestement son fort. Pourtant, elle avait les éléments. Incapable de prévoir le rythme d'investissement annoncé, et pas non plus capable de prévoir en 2024 ce qu'elle est en 2025, en 2026, la position de l'État, et notamment les décisions de l'État, dont j'ai du mal à penser qu'à la Cour des comptes au moins, on ignorait tout de ce qui risquait de se produire dans les 2 années qui venaient. Voilà. Et je m'amuse beaucoup d'avoir entendu les oppositions expliquer qu'on avait sous-investi tout en expliquant qu'on en prend trop. Oui, monsieur Secondet, complètement paradoxal. Vous nous reprochez comme un ultra-rigoriste, ultra-libéral, de trop emprunter en nous expliquant qu'il faut rembourser les dettes. M. Grégoire aussi nous a expliqué qu'il fallait rembourser les dettes. Heureusement qu'il est là. Nous ne le savions pas. Voilà, donc, alors, vous ne savez pas qu'il fallait rembourser les dettes. Je ne sais pas comment vous faites à Saint-Julien, si vous ne savez pas ou si vous... Ah, ben, en tout cas, oui, on sait qu'on emprunte, on rembourse les dettes. Bon, là on n'a fait que des investissements annoncés. Alors là aussi, l'opposition, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? Il ne fallait pas rénover l'opéra-théâtre et laisser finalement désaffecter. On n'aurait même plus pu l'utiliser, le plus vieil opéra-théâtre de France, encore en activité. Et au départ, il devait coûter 24 millions d'euros. En passant par les fourches codines des services de l'État, la facture passe de 24 à 34 millions d'euros. Puisque l'État, non seulement ils enlèvent de l'argent, mais ils imposent des dépenses supplémentaires. Voilà, comme ça qu'il fonctionne, l'État. Mais il y est pour rien, si j'entends mes oppositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'entends critiquer la passerelle Vadrino. Faut la faire ou pas la faire? D'abord, je m'inscris complètement en faux sur le fait que nous continuons pas le plan vélo. Je vous rappelle quand même aux élus du groupe LFI Vert et à la Gaune de façon générale qu'on a fait 3 fois plus de pistes cyclables sous le précédent mandat que sous le mandat d'encore avant. Voilà. Et que quand les pistes cyclables étaient encore de la compétence municipale sous tout le premier mandat de gauche et la moitié du deuxième, on a réalisé 600 mètres de pistes cyclables à Metz. Nous, on en a juste fait 10 km par an. Voilà. Et vous nous expliquez qu'on n'en fait pas assez ou que la passerelle Vadrino serait au détriment de l'investissement sur les pistes cyclables. Donc, dans vos interventions, on entend tout et son contraire. Alors, bien sûr, beaucoup de contre-vérités. Une autre, par exemple, que le bus à hydrogène coûte le double du bus électrique. Non, les AP, il coûte plus cher, c'est 50% de plus. Et quand on faisait le calcul, l'hydrogène ne nécessitait pas les investissements sur le site propre ni des temps de pause de recharge. Voilà. Et que donc on avait besoin de moins de rames et de moins de chauffeurs pour la même disponibilité opérationnelle et donc on était sur des prix à peu près équivalents. Oui, mais assez prudemment, on n'a pas mis tous les fers au feu. On a fait l'investissement qu'il faut pour avoir un système hydrogène viable. On n'est pas passé au tout hydrogène parce qu'effectivement, on est devant des hésitations de l'État de l'Europe et qui d'ailleurs sont regrettables. Et là encore, c'est totalement paradoxal. J'entends des gens qui se réclament de l'écologie de nous attaquer au nom d'une orthodoxie financière sur l'audace, effectivement, que nous faisons à innover en matière de transition écologique. Vous savez, moi, je m'inquiète un peu quand je vois que les Français, les Européens sont plutôt en train de lever le pied sur l'hydrogène alors que les Chinois foncent sur l'hydrogène. Et alors que nous avons pris 20 ans de retard sur les Chinois sur l'électrique. Et on est en train de prendre le même retard, nous Européens, sur l'hydrogène. Ce que je veux dire, demain, c'est l'hydrogène qui peut faire voler les avions sans surpolluer la planète et sans pétrole. Demain, c'est l'hydrogène qui pourrait remplacer le fioul lourd, notamment sur tout le trafic maritime et donner un formidable ballon d'oxygène à la planète. Voilà. Donc, et là, on est encore à schéma renversé. Les écolos, c'est nous, c'est pas vous. Non, mais on est dans une situation, c'est un peu lunaire, je trouve, ce débat aujourd'hui. Enfin, vous qui défendez, qui occultez le fait que l'État nous retire 10 millions d'euros de recettes par an, et je rajoute les 4 millions d'années blanches sur le FCTVA. Une année, on n'a pas de FCTVA. Voilà, débrouillez-vous. Voilà. Les difficultés, elles viennent de là. Alors effectivement, Monsieur le maire, vous demandez, est-ce que ce budget annonce un budget futur d'augmentation d'impôts? Je dis, je ne l'ai pas, incapable de le dire. L'horizon est complètement flou. D'abord, qui sera au pouvoir? Non. Il paraît qu'il y a des candidats qui ont des baguettes magiques qui vont redonner des moyens aux collectivités. Je ne sais pas lesquels, mais je ne sais pas où ils les prendront. Mais en tout cas, il y a, si vos amis sont là, je pense qu'on va là, on va retrouver des moyens. Donc j'attends, peut-être. Bon, donc, nous verrons. Mais pour l'instant, effectivement, c'est l'immense difficulté que nous avons, c'est que nous avons une stratégie. D'ailleurs, si Monsieur le maire, vous ne la voyez pas, je peux que vous inviter, je ne vous l'ai pas dit par élégance la dernière fois, mais je voulais vous inviter lors du débat d'orientation budgétaire simplement à lire le rapport dans lequel tous les éléments stratégiques étaient exposés. Je vous renvoie aussi, mais vous n'étiez pas encore dans notre assemblée, mais ce n'est pas vieux. Nous avons adopté juillet 2024, nous avons adopté en juillet 25, donc c'est tout récent, notre stratégie métropolitaine. Il y a tout dedans, je vous en ferai livrer un exemplaire. Et je peux même vous offrir et dédicacer le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle La Mirabelle et le Photon, que j'ai écrit en 2019. Vous décrivez toute une stratégie pour la ville de la métropole et qui reste totalement pertinente. Voilà, donc vous verrez que nous manquons pas de stratégie. Par contre, pour mettre en œuvre cette stratégie sur le moyen et le long terme, nous manquons vraiment de lisibilité. Et ça a été complètement chaotique depuis la Covid, la guerre en Ukraine, finalement, et la Covid dont on s'est mieux sorti, mais avec le quoi qu'il en coûte, mais dont on paye la facture aujourd'hui. Et donc on a aujourd'hui ce problème d'ordre national, d'un État en faillite, et auquel se rajoute une conjoncture mondiale des plus instables que je n'ai pas besoin de vous décrire. Voilà. Donc on a notre stratégie, là on aura, et on essaie de mener cette conduite, sauf que c'est perturbé partout autour. Et donc, on ne sait pas de quoi l'année prochaine sera faite. Ça ne nous empêche pas de continuer, je veux dire, sur nos investissements stratégiques, mais aussi nos investissements du quotidien. Alors, ces investissements du quotidien, d'abord, nous les maintenons. L'investissement du quotidien, il y a le logement, il y a l'habitat. Effectivement, sur le logement et l'habitat, on vit aujourd'hui une crise du logement. Monsieur Riffaut, oui. Mais là encore, vous savez, difficile pour une collectivité. On a déterminé un PLH. Et dans PLH, on définissait des objectifs, avec l'ambition même d'aller au-dessus et pas en dessous. Donc pour nous, nos objectifs, c'était plutôt des planchers. Voilà. Et puis, l'État posait plein de restrictions. Le ZAN, que vous défendez, des éléments exogènes qui ont posé problème. La Covid, rupture logistique, augmentation du coût des matériaux, guerre en Ukraine, crise de l'énergie qui s'est répercutée sur le logement, nouvelles normes thermiques qui sont défendables jusqu'à un certain niveau, mais quand le coût marginal des nouvelles normes ne s'amortit plus du tout par les économies générées, ça pose derrière un problème. Donc effectivement, nous sommes en pleine crise du logement aujourd'hui. Avec une offre qui est inaccessible et avec une demande qui reste plutôt qui est inabordable une demande qui est très réelle et qui n'est pas solvable. Sur lequel la métropole fait le maximum dans ses moyens, mais qui sont très limités. D'abord de politique de l'État et d'une conjoncture nationale, avec des facteurs extérieurs. Alors non, nous investissons au moins 2 millions par an. En plus, nous avons d'une part la délégation des aides à la pierre, et là donc nous gérons des moyens de l'État, il ne faut pas nous demander d'en mettre plus, on met ce que l'État nous donne, et nous avons par ailleurs une politique propre, 2 millions d'euros par an, qui souvent est allée au-delà, qui nous permet d'aider à la rénovation des logements sociaux, qui nous permet d'aider les copropriétés dégradées, qui nous permet d'aider l'accession sociale à la propriété, qui aujourd'hui est complètement, hélas, réduite à néant du fait à la fois de la conjoncture et de mesures nationales. Mais quand on disait que le PLH, on s'était fixé plutôt des planchers, la machine technocratique des SCOT et des PLUI, nous ont imposé des plafonds. Et le problème, c'est que les plafonds sont en dessous du plancher. Alors vous comprenez qu'il y a un problème en matière de logement quand le plafond est en dessous du plancher. Voilà. Donc il ne faut pas nous reprocher de ne pas avoir atteint le plancher quand le plafond est en dessous. Voilà. Et là encore, on essaie, de bonne volonté, avec l'esprit concret, d'agir au mieux dans cet exercice quasi impossible. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, c'est le cadre réglementaire qui est totalement handicapant. Monsieur Anstett, voudrait dire oui, nous avons certainement progrès à faire en matière d'évaluation des politiques publiques. On ne peut cependant pas transposer les méthodes du privé au public. C'est parce qu'on n'évalue pas les mêmes choses, pas sur les mêmes facteurs, pas sur les mêmes critères. Cela mérite d'être fait davantage. La ventilation des dépenses par commune, oui, peut présenter un intérêt. Mais vous savez, au l'Opéra Théâtre, c'est pas que les médecins. Les investissements universitaires, c'est pas les médecins. Et là, c'est totalement contraire à l'esprit métropolitain. Donc, il n'y a pas un ratio, même si vous aimez ça, comme l'échelle de l'Union européenne, ratio par nation, avoir le ratio du retour. Tous les services qui sont faits par la métropole sont des services communs. La station d'épuration de nos eaux, elle est à la max. Alors, on va dire que tous les investissements faits à la station d'épuration sont faits pour la commune de la max. Donc, ça nous bénéficie à tous. Hein? Bon, donc, bon, c'est, franchement, alors, et ne cherchez pas par ce biais à opposer les communes les unes aux autres, parce que vous aurez beaucoup de mal. Les maires ont bien compris l'intérêt que nous avons tous. Oui, le CSU est à Metz. Bon, mais le siège de la police métropolitaine est à Oudy. Est-ce qu'on doit imputer à Oudy, monsieur Orion, tout est dépend de la police métropolitaine. Bon, donc alors j'en profite pour dire à madame Bernardi qu'il y a un léger paradoxe à dire qu'il faut répondre aux besoins des habitants tout en critiquant 2 millions d'euros pour la police municipale sur un budget de 400. Parce qu'il a dû complètement vous échapper qu'aux dernières élections municipales, eh bien, la première demande de nos citoyens, c'était la sécurité. Ça a dû tellement vous échapper, d'ailleurs, que vous êtes là et moi, je suis là. Voilà. Donc, et vous devrez quand même vous poser quelques questions depuis. Mais pour tous les maires, pour tous les habitants, dire de pouvoir, grâce à un CSU, avoir quelqu'un qui regarde les caméras qu'ils peuvent placer, répond à un vrai besoin des vrais gens. Voilà. Donc, pour continuer et peut-être conclure, monsieur Anstett, vous avez... moi, je n'ai jamais cru qu'une métropole allait gérer des économies extraordinaires et que, notamment, toutes les mutualisations ou le fait de monter de niveau allait générer des économies d'échelle. J'ai même, prenez les débats au Parlement, très souvent dit l'inverse. La métropole, ce n'est pas fait pour faire à la place des communes ce qu'elles savent faire. Et si vous prenez, par exemple, on a même débat, la Chambre régionale des comptes voudrait qu'on prenne à la métropole la propreté voirie au motif que nous avons la voirie. Et j'ai toujours été réticent, en nombre de bon sens. Parce que dans une petite commune, qui fait la voirie ? Bon, eh bien, c'est un agent communal, il n'a pas de contremaître, c'est directement le maire ou l'adjoint qui est au-dessus, ça ne coûte rien. Quand j'étais à Voipy, il fallait déjà un contremaître au-dessus de tous les agents. Et puis à Metz, il me faut des contremaîtres au-dessus des contremaîtres. Voilà. Donc plus la base s'élargit, en fait, de la pyramide, plus la pyramide s'élève. Et donc sur des tâches, vraiment, beaucoup de tâches de terrain, et bien vous ne gagnez pas en additionnant la base. Au contraire, vous faites monter les frais de structure. Bon, sauf qu'à un moment, quand on balaye avec une balayeuse, il faudrait avoir un moyen de mutualisation de la balayeuse. Voilà. Et donc, à un moment, donc, il faut n'avoir aucune vision idéologique. Et très souvent, plutôt que de faire une prise de compétences métropolitaines, ben, je préfère encourager et aider, assister les communes pour passer des conventions entre elles, dans tel ou tel secteur, entre une commune moyenne et des petites, que j'ai largement pratiqué à Voipy avec les petites communes environnantes, de façon très, très souple. Donc, ce n'est pas systématiquement le recours à la métropolisation. Mais la métropole et l'EPCI, comme tous les EPCI, sont d'abord là pour faire ce que les communes ne peuvent pas faire seules, ou alors ce qu'elles feraient moins bien seules. Ouais. Si on a commencé à faire un district à Metz, c'était pour gérer les sapeurs-pompiers avant la départementalisation et pour gérer les transports en commun. Dites comment vous faites des transports en commun à l'échelle communale. Bon, ensuite, ça a été tout le traitement des déchets, bon, qui se règle au niveau intercommunal. Après, on s'est rendu compte que sur la collecte, même si la commune dont était le maire et dont Cédric est le maire aujourd'hui le faisait par elle-même, c'était la taille limite, je veux dire, se fait de façon intercommunale. Bon, et donc, il y a un grand nombre de services. Et aujourd'hui, la métropole amène des services, leur permet aussi de répondre aux nombreuses obligations réglementaires, c'est-à-dire qui en 20 ans, se sont multipliées, auxquelles les communes sont absolument incapables de répondre. Et s'il n'y avait pas eu l'intercommunalité pour faire ce que les communes ne pouvaient pas faire seules, on aurait eu un autre mouvement qui aurait été un mouvement obligatoire de fusion des communes. Donc, le maintien des communes dans leur diversité et qui permet à, déjà l'expression démocratique la plus proche, qui permet les circuits les plus courts, qui permet aussi à l'État de mobiliser des élus locaux qui sont payés pour moins que le SPIC polonais quand ils ne sont pas totalement bénévoles, et bien fait faire beaucoup, permet des services publics à un bien moindre coût pour la collectivité que si tout était fait par des fonctionnaires territoriaux. Quand c'est l'agriculteur adjoint en maire, vice-président du syndicat des eaux qui va ouvrir et fermer la vanne, ça coûte moins cher qu'un technicien territorial et puis qu'il le fait à n'importe quelle heure. C'est territorial, peut être en astreinte, en heures payées double en plus, si c'est des heures la nuit ou le week-end. Voilà, donc, et dans le pays qui est déjà le plus fiscalisé ou l'un des deux les plus fiscalisés du monde, eh bien, finalement, l'organisation territoriale reposant sur les élus locaux fait plutôt gagner de l'argent qu'en faire perdre. Donc, et ne doit pas être ainsi dénigré, mais on doit travailler dans la subsidiarité. Et ça, le pouvoir actuel, eh bien, on a un centrisme centralisateur, alors que la tradition du centre en France était plutôt girondine que jacobine. Je ne suis pas certain que le pénisme ou le nationalisme soient davantage décentralisateurs, mais en tout cas, les solutions ne seront que par mise en œuvre d'une vraie subsidiarité. Bon, et c'est celle qu'on continue à pratiquer à la métropole. À la métropole, on ne cherche pas à remplacer les communes dans ce qu'elles font mieux. Je veux dire, on cherche à les aider, faire à monter ce qu'elles ne pourraient pas faire. Les policiers municipaux, ben, ils restent municipaux partout où ils peuvent l'être. Après, ils sont intercommunaux, d'ailleurs partagés entre les communes qui ne pourraient même pas en avoir un ou même un à mi-temps d'être toutes seules. Les vidéos, elles restent municipales, les caméras. Par contre, un CSU, petite commune ne pourrait pas avoir un CSU avec Metz, Aïbide, Voipy et encore page 24. Voilà, donc on essaie d'être le plus pragmatique possible et avec le souci de bien utiliser l'argent qui nous reste. Et le problème, c'est de savoir aujourd'hui quel est l'argent qui nous reste. Et ce budget consiste à utiliser au mieux l'argent qui nous reste. Et l'année prochaine, on verra. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Alors oui, attendez, alors, il y a plusieurs motions. La première motion... je rappelle ce qu'avait dit Thierry Houry, qui décide la reprise anticipée du budget principal et des budgets annexes, voilà, et qui adopte le budget primitif tel que présenté. Voilà. Sur cette première motion, qui vote contre ? Alors, toutes les oppositions, alors PS, LFI, RN et Saint-Julien. Voilà. Bien. Alors, ensuite, nous passons à la motion 2, qui est l'autorisation des programmes et des crédits de paiement et l'autorisation d'engagement annoncé. Qui vote contre ? Alors, là, on a les filles PS ouais, qui s'abstient, RN et Saint-Julien. Ouais. Les autres votent pour, je vous remercie. La motion 3, qui est la fixation du taux de la TOM. Avant le vote, c'est de dire que sur la TOM, ce qui était vrai ne l'est plus. Donc, il n'y a plus d'excédent sur la TOM. Voilà. Et là encore, quand je parle d'exercice rétrospectif et non pas prospectif de la Chambre régionale des comptes, on a deux exemples. C'est le budget, la taxe d'ordures ménagères et c'est aussi le budget transport. Voilà. Budget transport, on nous reprochait de ne pas avoir de participation au budget général. Ben, ça ne va pas continuer. Il va falloir y passer, le versement mobilité ne suffira pas. Et par ailleurs, sur la taxe, oui, on peut la voter à l'aise, chers collègues. On ne viendra pas nous demander le remboursement parce qu'on l'utilisera intégralement. Alors, sur ce, qui vote contre ? Donc, le groupe RN. Qui s'abstient ? Donc, Saint-Julien, les Metz et les deux groupes de gauche. Votre vote pour. Je vous remercie. Alors, point numéro 4, fixation des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2026, donc il reste inchangé. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc toutes les oppositions. Et de tout pour, je vous remercie. Et la motion numéro 5, fixation du produit attendu par la taxe GEMAPI pour l'année 2026. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Toutes les oppositions. Et les autres votent pour. Je vous remercie. Ben, je crois qu'il n'y avait plus de point de délibération. Il y avait la communication des décisions de l'exécutif qui vous ont été communiquées. Je n'ai pas reçu de questions. Et donc, je lève la séance. Bonne fin de soirée à tous. Et n'oubliez pas de signer, hein.